Bon, merci à tous d'être venus nombreux, puis il y a encore des gens qui sont là-haut, ils sont habitués, je dirais pas au quart d'heure point de 20, mais aux 5-10 minutes, et puis je crois qu'il paraît que l'horloge est un petit peu en retard. Merci d'être là pour assister donc à une conférence qui est aussi intéressante que celle qui a eu lieu dans la même salle, il y a tout à l'heure, c'était plein aussi, et je crois que depuis quelques semaines, depuis la déclaration du secrétaire général de l'ONU, monsieur Guterres, qui a dit, donc je crois que c'était en septembre, qu'il nous restait 2 ans, hein, avant, parce que l'humanité était 2 ans pour agir, sinon l'humanité était en danger sérieux. C'est important de venir ce soir, écouter bien sûr les intervenants, Benoît les représentera, mais donc nous avons un professeur émérite de l'Université de Poitiers, monsieur Legueux, monsieur Périssop, qui est encore en activité, c'est un géographe, hein. Ça me permet aussi de saluer le président de l'université qui est là, qui était là l'autre jour à une conférence organisée par Vienne Nature, passionnante, aussi sur le phénomène climatique, c'était extrêmement intéressant, qui montre la qualité des intervenants, mais aussi l'attention du public qui est là. Et puis, Benoît et sa collègue, quand ils vont nous présenter ce qu'ils font, le travail qui est fait, surtout sur l'Afrique, qui va avoir sa population doublée, hein, de 2 à 2,5 milliards en 30 ans. Alors, soit c'est les solutions de certains hein, qui sont là en s'enfermant, en disant... On doit empêcher ces gens-là de venir, hein, c'est ce qui fait trembler aux États-Unis. Soit il y a des solutions, c'est ce qui va être montré ce soir. C'est une des solutions au niveau de l'Afrique, le travail remarquable que fait Benoît Théo et son équipe. Et puis, je vous laisse la parole, c'est lui-même qui va bien présenter l'actualité, parce que sinon, je crois qu'il y a de l'espoir. Sinon, vous pouvez vous jeter dans le plein, il n'y a pas beaucoup d'eau. Hein. Vous aurez du mal à y aller, et puis il n'y a pas beaucoup d'eau, j'habite devant.
Bon, ben merci beaucoup, Daniel, qui a été la cheville ouvrière de l'organisation de cette soirée. Alors, grand merci à toi, et puis à toutes les personnes, bien sûr, qui ont contribué. Alors, avant de présenter les intervenants, nous avons deux pédagogues, là, dans la salle, qui vont préparer un petit quiz sur le changement climatique. Alors, je pense que vous connaissez déjà tout, vous avez toutes les informations nécessaires, mais on va quand même tester un petit peu vos connaissances. Voilà, Geneviève et Anne, si vous voulez bien.
Bonsoir. Alors, première question. La plupart des scientifiques reconnaissent maintenant que les changements climatiques sont liés à l'activité humaine. Ils représentent, ces scientifiques, vous avez 3 propositions de pourcentage, ils représentent 98% de la communauté scientifique, 99,51% de la communauté scientifique ou 99,94% de la communauté scientifique. Donc 3 propositions. Voilà.
Alors réponse.
Réponse. La réponse A, 98% de la communauté scientifique. Réponse B, 99,51%. Alors on peut peut-être faire lever les doigts. Réponse C, 99,94%. Alors c'est la dernière réponse qui est la bonne. Voilà.
Les choses ont évolué, oui.
Oui.
Alors, deuxième question. Parmi les 10 pays les plus vulnérables au réchauffement climatique, la plupart sont... Alors, vous avez le choix entre 3 propositions. La plupart sont en Asie, la plupart sont en Océanie ou la plupart sont en Afrique. Asie, Océanie... En fait, c'est en Afrique. Alors, il y a 7 pays en Afrique qui sont concernés, plus particulièrement. Ce sont le Centrafrique, l'Érythrée, l'Éthiopie, le Nigeria, la Sierra Leone, le Tchad et le Soudan.
Vous n'êtes pas d'accord? Alors, troisième question. On estime actuellement le nombre de personnes qui sont susceptibles de migrer en raison des changements climatiques. 500 millions de personnes, 850 millions de personnes, 1 milliard de personnes. Quel ? Actuellement. Voilà, actuellement. On estime actuellement. Donc on a 500 millions, 850 millions, 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard de personnes. Non. 1 milliard de personnes.
Question suivante. L'urbanisation accroît les risques de catastrophes climatiques. Or, trois métropoles en Afrique connaissent une croissance démographique rapide. La plus grande d'entre elles est, alors vous avez le choix entre trois villes, Le Caire en Égypte, Lagos au Nigeria ou bien Kinshasa en République démocratique du Congo. C'est Le Caire avec 24,4 millions d'habitants. À Lagos, il y en a 22,8 et à Kinshasa, 12. Le Caire et Lagos sont effectivement proches.
Cinquième question. Pour limiter l'utilisation du charbon de bois qui contribue à la déforestation et à la disparition des zones de mangroves, de jeunes entrepreneurs en Afrique, par exemple, produisent du charbon vert. De quoi s'agit-il ? Trois propositions. De charbon qui n'émet pas de CO2 lors de sa combustion. Deuxième proposition, de charbon fabriqué à l'aide de résidus végétaux. Troisième proposition, de charbon fossile mélangé à des débris végétaux. Il y en a qui ont vu un reportage de Benoît.
Alors, on va continuer avec les estimations du GIEC. Les climatologues estiment aujourd'hui que le GIEC a été optimiste dans ses prévisions de 2014. D'ici 2100, la Terre pourrait se réchauffer de, alors il y a trois propositions, 10%, 15% ou 16%. 10, 15 ou 16. Alors c'est 15%, hein? On estime qu'on passerait de 3,2 à 5,9 degrés par rapport à la période pré-industrielle.
Alors, septième question. On a parlé de l'Afrique tout à l'heure. Parmi les 10 pays du monde les plus touchés actuellement par les changements climatiques, 4 sont en Afrique. Le pays africain le plus touché parmi ces quatre, est-ce le Ghana, est-ce le Malawi, est-ce le Mozambique? Ghana, Malawi, Mozambique. Quel est le pays le plus touché par les changements climatiques? Ah, ça hésite. Vous savez pas? C'est le Mozambique. Le Mozambique. En deuxième position vient le Malawi. En troisième position vient le Ghana. Et quatrième position, Madagascar.
S'il y en a qui souhaitent avoir les sources, on les a. Hein? Il nous reste deux questions. Et puis après, on passera à des choses plus sérieuses. Quelle est la hausse moyenne de température depuis 1750? Alors, vous avez le choix entre trois propositions, 0,1 degré, 1 degré ou 3 degrés. 1 degré, oui. 1 degré.
Dernière question. Dernière question. Si l'océan se réchauffe, il absorbera plus de CO2, moins de CO2 ou autant de CO2 que maintenant ? Moins de CO2.
C'est bon. Voilà, merci pour votre attention et puis vous aurez d'autres informations.
Merci beaucoup. Alors, vous avez tous entendu parler de l'accord de Paris qui a été adopté par 195 pays lors de la 21e conférence des parties, hein, ce qu'on a appelé la COP 21 à Paris en décembre 2015. Cet accord qui vise en particulier à renforcer la riposte mondiale à la menace des changements climatiques. Et je cite un extrait du rapport du GIEC. « En contenant l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 degrés par rapport au niveau pré-industriel et en poursuivant l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 degré par rapport au niveau pré-industriel. » Et donc vous savez qu'en octobre dernier, le GIEC a présenté un rapport spécial sur les conséquences d'un réchauffement planétaire de 1,5 degré. Élément scientifique clé, ce rapport sera évidemment au cœur de la conférence sur les changements climatiques, la COP 24, qui se tiendra prochainement dans la ville polonaise de Katowice, qui est la capitale du charbon, comme tout le monde le sait, en décembre prochain, et lors de laquelle les gouvernements feront le point, bien sûr, sur l'accord de Paris sur les changements climatiques. Il est indiqué dans le rapport que la limitation du réchauffement planétaire à 1,5 degré nécessiterait des transitions rapides et de grande envergure dans les domaines de l'aménagement du territoire, de l'énergie, de l'industrie, du bâtiment, du transport et de l'urbanisme. Et donc, vous voyez qu'on touche du doigt, évidemment, l'ampleur des transformations à accomplir. Alors, ce soir, trois intervenants vont nous éclairer sur ces questions. Daniel Peruzaube, qui est maître de conférence en géographie à l'Université de Poitiers et qui s'intéresse à ces questions depuis de très nombreuses années. Daniel Legube, qui est président du conseil... Bernard Legube, qui est président du conseil scientifique de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne et membre de Climatera. Et puis Myriam Ouzir, qui est ingénieure écologue et consultante en développement durable territorial et coordinatrice avec moi du programme Initiative Climat Afrique francophone. Donc la parole est à Daniel.
Merci, merci Benoît. Bon, je me lève si vous permettez parce que je ne sais pas rester assis lorsque je m'adresse à une assemblée. Bon, bonjour à tous. Donc la présentation est en fait et le temps étant serré, je compte rester à peu près une demi-heure, enfin rester 20 minutes. J'accélérerai, je sabrerai, comme on dit, mes diapos à un moment donné. Donc, ce que je vous propose ce soir, le titre est évocateur. Le mot crise est fort, mais je pense que nous y sommes actuellement. Et donc, quelques réflexions que je vous soumets ce soir à discussion, à débat et pour votre propre réflexion. Alors, juste une première chose, je recadre quelque chose qui m'est cher dans la mesure où nous sommes dans l'histoire du climat de la Terre dans une période de réchauffement, mais de réchauffement tout à fait naturel, avec une alternance de période glaciaire, interglaciaire, glaciaire, et nous on est ici, donc on est bien en période glaciaire, la dernière glaciation étant il y a à peu près 15-20 000 ans. D'accord ? Donc, on est dans une période de réchauffement et si on suit si la Terre continue à se comporter comme elle s'est comportée depuis très très longtemps, on va vers une glaciation. On ne la connaîtra pas, évidemment. Simplement, quand on dit ça, on se dit, bon, ben oui, mais ça n'a rien à voir avec ce que l'on vit aujourd'hui, puisqu'on parle de réchauffement, certes. Mais les générations extra futures se mettront dans l'igloo. Parce que la Terre va respirer normalement et partir vers une future glaciation. Le problème, c'est que, je fais fi des échelles, mais elles sont très importantes ici, le problème c'est ça. Alors je viens d'entendre 1 degré depuis 1750, bon moi je démarre à 1880, donc à l'échelle mondiale on approche le degré, on a 0,1 0,85 degrés, donc de réchauffement par rapport à la période pré-industrielle. Mais néanmoins, c'est cette toute petite période qui a affolé et qui affole les scientifiques, puisque ça va trop vite par rapport à ce que l'on connaît de la respiration thermique du climat mondial. Donc c'était juste pour recadrer, pour contextualiser ce fameux presque 1 degré. Alors, je rappelle très rapidement, je n'ai pas trop de temps, mais je le rappelle, les scientifiques sont aux abois, les climatologues en particulier, vous le savez. Je rappelle ce qui s'est passé il y a à peu près un an, donc 13 novembre 2017, un appel de plus de 15 000 scientifiques mondiaux, donc de quasiment tous les pays de l'ONU, dans une revue qui s'appelle Bioscience et qui avait été relayée par Le Monde, qui est un premier avertissement lourd à l'humanité. Ça a été dit il y a deux minutes, et M. Le Gub l'exprimera tout à l'heure beaucoup plus précisément, puisqu'il a signé l'appel. Donc, il y a quelques semaines, l'appel de 700 scientifiques français, pour le coup, là on n'est plus à l'international, on est en France, pour demander au gouvernement, alors c'était mis au pluriel, mais on peut mettre au pluriel, parce que les gouvernements se suivent et se ressemblent un petit peu là-dessus, de rapidement et de fortement réviser leur feuille de route climatique. On est en train de vivre des choses en ce moment, hein, si vous suivez bien l'actualité. Et le côté, en tout cas, le sujet énergétique est particulièrement saillant à ce propos. Et puis, je fais référence à une étude de ce mois d'août, donc de cet été, dans une revue que vous connaissez ou pas, peu importe, PNAS, c'est un acronyme anglais. C'est tout simplement, si je puis dire, la revue qui publie les comptes rendus de l'Académie des sciences américaine. Donc, c'est peut-être intéressant de dire aussi que c'est américain, parce que dès qu'on parle d'Américain, d'USA et de climat, bon, on a souvent une réaction un petit peu négative, voire très négative. Bon, tous les Américains ne sont pas à mettre dans le même sac. Néanmoins, cette revue, donc, fait état d'une étude qui dit quoi ? Qui dit que si on combine la fonte des glaces de l'Antarctique de l'Ouest, c'est précis, hein, c'est pas à l'Est, c'est l'Ouest, la déforestation, les émissions de gaz à effet de serre, on est dans un scénario d'aggravation majeure de ce qu'on appelle un effet domino si on atteint les 2 degrés. Donc les 2 degrés, même personnellement, je pensais que c'était un seuil politique. Apparemment, il est de moins en moins politique et il s'avère être vraiment véritablement scientifique. Donc la bascule serait entre 1,5 et 2 degrés, mais la bascule physique, où vraiment là, ça se passerait probablement mal sur la planète. Le problème, c'est que ça pourrait être atteint avant 2100 et je pense que vous le savez, on est en train de faire des rétropédalages. Tout ce qu'on disait il y a 5-6 ans à échéance 2100, ben on se rend compte que ben ce sera peut-être plutôt vers le milieu du siècle, plutôt vers 2050. On arriverait à une température de 4 à 5 degrés, ce qui est énorme. Juste pour comparer, lorsqu'on est en période glaciaire, on a un refroidissement de 7-8 degrés au maximum. Et lorsqu'on est en période interglaciaire, comme actuellement, on monte jusqu'à 2-3 degrés, ce qui est déjà beaucoup. Là, on irait à 4-5 degrés d'ici la fin du siècle, voire avant. Et je ne détaille pas, mais vous voyez la cascade de conséquences très violentes. J'en prends juste un, j'ai écrit régime de mousson très perturbé. Lorsqu'on sait combien de gens dépendent de la mousson pour leur vie quotidienne, si jamais ce type d'événement météorologique, climatique, puisqu'on est à l'échelle de plusieurs mois, est vraiment perturbé, ce sont des catastrophes annoncées, évidemment. Et la conclusion, c'est que l'humanité est en sursis. Bon, on le sait, mais on va le savoir encore plus, et c'est répété de manière très, très prononcée. Je ne suis pas sûr que ce genre d'événement scientifique soit répété d'année en année. Les scientifiques, à un moment donné, vont se lasser. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Ils vont se lasser, ils vont continuer leur travail très sérieusement, il n'y a pas de souci. Simplement, si les décideurs ne suivent pas, bon, bah, à un moment donné, voilà. Alors, il n'y a pas que les décideurs, vous me direz, il y a aussi vous, moi, nous, et peut-être que ça démarrera de là. Ça a déjà démarré, je pense qu'on aura de très beaux exemples tout à l'heure avec Benoît et Myriam. Très rapidement, je ne vais pas vous saouler de courbes. Celle-là, on la connaît. Ce qui est intéressant de voir année après année, c'est que on est toujours en rouge. Donc la hausse, elle est là. Elle est là depuis, grosso modo, le début des années 80 à l'échelle mondiale. La France, parce que c'est toujours bien de parler du monde, mais je considère qu'il faut aussi parler de soi-même et de sa vie personnelle. Je trouve que ça nous parle un petit peu mieux. Donc la France est un petit peu différente, on est un petit peu décalé, puisqu'on voit que ça commence à bouger, mais seulement à partir de la fin des années 80. Donc il y a un petit décalage, peu importe, ça ne change rien. Et on est sur un degré et demi de hausse de température sur tout le territoire métropolitain, ce qui est beaucoup, en si peu de temps. Je continue. Au niveau spatial, des chiffres et des courbes, c'est bien, mais il faut aussi se repérer. Et ce n'est pas le géographe qui dira le contraire. Et si je mets ce document, donc tout le monde le lit sans difficulté, plus c'est rouge, plus ça se réchauffe. Plus c'est blanc, plus c'est... on ne sait pas trop. Ou alors ça ne bouge pas beaucoup. Bon, on voit par exemple l'Antarctique de l'Est reste un petit peu étale. On est quand même sur une référence de tout le XXe siècle. Donc, ça ne bouge pas sur l'Antarctique Est, mais ça bouge beaucoup sur l'Antarctique Ouest. C'est pour ça, tout à l'heure, je parlais des glaciations dans l'Antarctique occidental. Et donc, on repère des hotspots. Donc, j'ai mis cette carte exprès pour bien attirer votre attention sur les hautes latitudes. Vous le savez ou pas, mais bon, je pense que vous le savez. Ce sont actuellement les territoires qui souffrent le plus. Même si on a parlé d'Afrique, et qu'on parlera de l'Afrique, c'est normal dans le cadre d'initiative climat, mais même s'il n'y a pas beaucoup de population, aux alentours, les populations polaires, c'est à peu près 400, 500 000 habitants au grand maximum, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas nombreux qu'on ne doit pas s'occuper d'eux et qu'on ne doit pas être attentif, mais ça dépasse la simple humanité, ça concerne aussi tous les écosystèmes nordiques qui ont un lien avec la climatologie générale. Donc si ça coince dans un côté de la planète, ça va forcément avoir des conséquences dans le reste du mécanisme climatique planétaire. Simplement, on a dit pour la France 1 degré. On est sur 4 à 5 degrés dans des territoires nordiques. Là, c'est totalement... c'est inédit. C'est inédit en si peu de temps. La conséquence, elle est multiple. Elle est sur les écosystèmes, bien entendu, elle est sur les populations qui vivent, mais elle s'impose aussi, les conséquences s'imposent dans notre manière de fonctionner en économie et en particulier dans ce qu'on appelle les routes maritimes. Donc là, j'avais attiré l'attention aux étudiants, mais à moi-même également, je m'étais attiré l'attention sur septembre 2009, donc ça fait une dizaine d'années, on avait une première là. Bon, je le mets entre guillemets, c'est une première, comme au cinéma. Et donc on a un petit bateau allemand qui est escorté par un brise-glace. Et c'est la première fois qu'il passait dans un endroit, un passage maritime, qu'on appelle le passage du Nord-Est. Pourquoi ? Parce que la banquise, en tout cas l'océan glacial arctique à cet endroit-là, était déglacée pour la première fois. C'est-à-dire en septembre, un bateau pouvait naviguer, certes escorté, mais pouvait naviguer sur cette route maritime-là qui n'était pas utilisée, qui n'avait jamais été utilisée. On est en 2009. Pas plus tard qu'il y a un mois. Voilà ce beau bateau, donc c'est autre chose. D'accord, par rapport au petit bateau allemand, là c'est un assez gros bateau de la société Maersk, dont la première compagnie de conteneurs au monde, donc qui transporte ses boîtes, donc qui a lancé ce porte-conteneur sur un trajet Vladivostok, Russie orientale, Saint-Pétersbourg, d'accord, donc on reste en Russie. Simplement, au lieu de faire un grand tour par soit le canal de Suez ou soit par le canal de Panama, si vous me suivez bien, ils ont pris la route nordique parce que c'est un petit peu plus court. Donc si c'est plus court, ben, ça peut coûter moins cher. Enfin, c'est peut-être intéressant de voir comment ça marche. Donc il a mis 5 semaines. Ça a bien fonctionné. Bien entendu, il a été escorté par un brise-glace russe. Et les Russes se frottent les mains parce qu'ils font payer des taxes, évidemment. Bref, ce que je veux dire, c'est que dans ce cas-là, on a un système qui fait que le commerce international maritime peut être bouleversé. Je dis bien peut être. Vous allez voir qu'on va quand même relativiser. Je vous ai mis des courbes. De loin, on doit bien les voir. Retenez juste les courbes en couleur qui vous montrent l'extension de la banquise arctique, donc au pôle Nord, en été, lorsqu'elle est la moins développée en surface. Vous avez une moyenne en gris sur la période 1980-2010. On voit systématiquement les courbes de couleur sont les courbes chronologiques, dans des années 2014 à 2018. On voit qu'elles sont systématiquement en dessous de la moyenne. Et ce ne sont pas quelques dizaines de kilomètres carrés. Ce sont des milliers de kilomètres carrés, parfois. Le record ayant été en 2012, d'accord, où on n'avait jamais enregistré, observé, on était à moins de 4 millions de kilomètres carrés pour une moyenne d'un peu plus de 6. Bon, tout ça pour dire que le réchauffement dans ces hautes latitudes a des conséquences majeures sur les écosystèmes et en particulier sur l'espace maritime. L'épaisseur a baissé, bien entendu. Bon, il y a une deuxième carte pour spatialiser. La ligne jaune est la limite moyenne où on devrait avoir la glace. Là, on était à la fin du mois d'octobre de cette année. Donc, on voit que tout ce qui est bleu ici est libre, devrait être rempli si le climat n'était pas en train de changer. Donc, on voit bien, la route du nord-est est ici. Donc, là, on est en octobre, ça y est, la banquise est en train de se reconstituer. Mais un mois auparavant, tout ça n'y était pas, donc le bateau a pu passer sans aucun souci. À condition, je dis bien, d'être escorté. Donc, la même façon que je vous ai parlé du canal de Suez, de la route via le canal de Suez et de la longue route via Panama, eh bien, on a effectivement ces deux routes nordiques, le nord-est et le nord-ouest. Donc le nord-ouest par le Canada, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup d'îles, c'est beaucoup plus dangereux. Alors que le passage du nord-est au large des côtes russes, ce passage-là est beaucoup moins dangereux. Pourquoi je dis beaucoup moins dangereux? Donc il y a quelques petites statistiques. Deux navires en 2009, 71 en 2013 qui ont utilisé donc cette route-là. Donc, ça avait l'air bien vraiment de prendre. Et puis, il y a une stagnation, voire une baisse, qui peut nous faire dire que, bon, l'engouement est peut-être terminé pour le moment. Il y a peut-être des soucis. C'est une hypothèse. Le canal de Suez est à 17 500, donc c'est juste pour garder en tête que, bon, OK, on parle de ces routes nordiques, mais c'est quand même une pichenette par rapport au trafic mondial. Mais les obstacles, il y en a beaucoup, ce qui peut expliquer cette baisse. Les glaciers vivants, une cartographie des récifs qui est limitée. Les scientifiques n'ont pas pu faire beaucoup, beaucoup de choses ici, même s'ils ont fait beaucoup d'efforts. Mais voilà, la connaissance des fonds marins arctiques n'est pas la même que celle des fonds marins tropicaux. Les retards, il peut y avoir des glaciers vivants. Sauf que mon client, il m'attend. Si je ne livre pas à date précise, je vais payer des pénalités. C'est pas bon. Vous voyez les surcoûts, je ne les détaille pas. Et puis, en termes de commerce, lorsque vous avez votre bateau qui part de Rotterdam, qui va à Shanghai, il va s'arrêter, peut-être en Inde. Il va faire un arrêt. Il va peut-être faire un arrêt au Moyen-Orient pour échanger des marchandises, en livrer et en prendre. On fait du commerce. Là, il n'y a pas beaucoup de clients. Donc, c'est un désert commercial. Et ça, au niveau commercial, c'est pas franchement très motivant. Il n'empêche qu'on peut quand même faire des économies. En tout cas, pour un armateur, ça peut être intéressant. Le GIEC, en 2013-2014, dans son cinquième rapport, nous dit quoi ? Nous dit, à partir du milieu du siècle, vous voyez cette courbe rouge, c'est le pire des scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, pour simplifier. On est dedans. Hein. On est dedans. Donc, le violet, c'est le vertueux, on l'oublie. Ça c'est fini, on n'y arrivera pas. Donc, vous voyez que la banquise, à partir du milieu du siècle, elle va devenir libre, l'océan glacial va devenir libre de glace l'été. Parce que là aussi, il ne faut pas penser que l'hiver, il n'y aura plus de glace. Non, non, il y aura toujours de la banquise d'hiver. Simplement, l'été, ben, ce sera libre de glace. Malheureusement, je pense que les armateurs y regarderont de plus près parce qu'il y a, outre le passage, pour passer en bateau, il y a aussi des possibilités d'extraire des ressources minérales en particulier. Je dis deux mots rapidement sur le permafrost. Le permafrost, c'est le sol gelé constamment aux très hautes latitudes, sur plusieurs dizaines, voire centaines de mètres. Le problème, c'est que si l'air se réchauffe beaucoup, et on a vu qu'il se réchauffait beaucoup dans les hautes latitudes, ben, il va fondre. En quoi est-ce un problème ? Dans le permafrost, c'est tout ce qui est en violet. Je ne détaille pas, mais vous voyez, c'est toutes les contrées nordiques, grosso modo. Là, c'est l'évolution de la surface de ces sols gelés, entre 1900 et 2000. On voit que, on ne sait pas trop dans ces années-là, mais qu'à partir, encore une fois, du début des années 80, on est systématiquement en perte de surface des sols gelés. Donc il y a de moins en moins de sols gelés. Vous me direz, c'est peut-être très bien pour les gens qui y vivent. Pas sûr. Pas sûr. Donc le permafrost, c'est ça. Juste une échelle, vous avez un petit bonhomme ici. Enfin, un petit bonhomme, vous avez un monsieur. Voilà, qui vous montre que lorsque ça bouge, ça montre que ce n'est pas le petit sol gelé que nous avons, nous, lorsqu'on a de bonnes gelées en France en particulier. Le problème, il est le suivant. Lorsque ce sol, ce type de sol fond, vous avez potentiellement de la libération de carbone, de dioxyde de carbone, de méthane, d'anciennes bactéries, dans des petites bébêtes qui étaient au froid, au congélateur, tranquilles, endormies. C'est l'effet Hibernatus, je dirais. Et vous irez voir si ça vous intéresse, s'il s'est passé quelque chose d'assez inquiétant dans la péninsule de Yamal en Russie en 2016, avec de l'anthrax qui était libéré, donc c'est une bactérie, et qui n'est pas très sympathique. Donc des inondations, des marécages, une érosion côtière, etc. Et il y a des gens qui vivent dans ces contrées. Donc j'aurais pu prendre un exemple de villages africains, enfin voilà, il y a beaucoup de pays ou d'endroits, de territoires qui souffrent d'une manière ou d'une autre de ce qui se passe au niveau de notre atmosphère. Les petits Alaskiens, je ne sais pas si on dit comme ça, eux sont toujours joyeux lorsqu'ils ne peuvent pas toucher dans l'eau, mais ça c'est le propre des enfants. Les parents disent forcément autre chose. On pourrait se dire de loin, oh ben c'est joli ce petit sentier en bois là, c'est voilà, c'est nous on aime bien ça, ces petites constructions en bois pour marcher. Le problème c'est que tout simplement c'est nécessaire pour pouvoir marcher, parce que sinon vous êtes dans la gadoue. Donc c'est un environnement de vie qui devient très 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 difficile pour ces populations. Ne parlons pas des inondations et de l'érosion côtière qu'on connaît aussi sur nos littoraux. Mais c'est pas tout à fait la même chose, on va dire. Alors, on est dans un contexte record. Je surveille ma pendule. J'ai 10 minutes encore. 5 minutes, mon Dieu. On est dans un contexte record, donc je vais aller très vite, je vais passer beaucoup de choses. On est dans un contexte de niveau record de gaz à effet de serre. L'AIE, c'est l'Agence internationale de l'énergie. L'Agence internationale de l'énergie évoque une thématique qui est l'efficacité énergétique. Il faut travailler à fond là-dessus. Entre autres, on a vu qu'il y avait plein de domaines qui étaient concernés. Simplement, si on travaille sur l'efficacité énergétique, on a peut-être une chance de s'en sortir. Cette efficacité énergétique, à l'échelle du monde, l'année dernière, c'est un petit 236 milliards. On voit les trois secteurs qui sont concernés. On améliore le bâtiment, on améliore les transports, on améliore l'industrie. Le problème, c'est que à peine un tiers de la consommation énergétique mondiale est couverte par des réglementations. Donc ça veut dire que les deux tiers, ben non, on fait un peu ce qu'on veut. Et d'où un énième scénario, celui de l'AIE, qui s'appelle Efficient World, et qui dit globalement en 2040, on va continuer à consommer, mais on va consommer moins malgré une hausse de population de 20%, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on continue à se reproduire. On est 7,5 milliards, mais dans quelques temps, on sera 10 milliards. Il faut bien que tout ce monde-là vive bien, en tout cas mieux. Simplement, si on a une politique d'efficacité énergétique digne de ce nom, on va pouvoir tempérer cette progression de consommation énergétique. Ça concerne essentiellement les pays émergents. Ça nous concerne aussi nous. Mais nous, on a déjà fait du grabuge. Et on est passé à autre chose. On continue à en faire. Simplement, les pays en développement, eux, ils ont envie de faire la même chose que nous. Et ils ont le droit de mieux vivre, évidemment. Le problème, c'est qu'il ne faudrait pas qu'ils nous copient. Mais si on ne veut pas qu'ils nous copient, il va falloir les aider. C'est tout le problème. Le Parlement européen travaille sur ces questions. Octobre 2018, on travaille sur les véhicules lourds. On travaille sur les bus électriques qui doivent être de plus en plus nombreux dans les villes à l'horizon 2030. C'est demain. On travaille sur les nouveaux camions, etc. etc. Bon. Donc, j'ai mis juste une question. Il va falloir qu'on change nos modes de vie. Il faut des politiques d'atténuation et d'adaptation. Je ne parlerai pas de la géo-ingénierie climatique, bien entendu. Est-ce qu'il va falloir changer notre façon de produire dans le secteur agricole? Oui. Est-ce que la riziculture pluviale, qui dépend exclusivement de l'eau qui tombe du ciel, va être bouleversée? J'en sais rien. On nous dit que oui, puisque le cycle de l'eau risque d'être franchement perturbé. Il l'est déjà, et on nous prévoit des choses beaucoup plus violentes à nouveau. Alors, je fais un clin d'œil au Maroc, puisqu'on est, on va vers un monde dit décarboné, puisque c'est le carbone qui est la cause de tous nos maux. Et donc, une des pistes, c'est cette fameuse course vers les énergies renouvelables. Je ne vais pas développer, simplement, voilà, j'évoque simplement, mais Myriam pourrait en parler certainement mieux que moi, donc d'un très beau projet de centrale solaire donc, du côté de Ouarzazate, qui fait partie pour ce royaume, pour ce pays, de la politique développée actuellement vers des énergies plus propres. Bon, je passe. Autre solution, parce qu'on va continuer à émettre du carbone. Bon, mais plutôt que de l'envoyer, de le laisser libre, on va le capter avant qu'il parte, que la molécule s'en aille. Hop, on la stocke. On la séquestre. On la séquestre où? Ben, on la séquestre sous terre. Il y a des réservoirs qu'on aura identifiés. Ça existe déjà, ce n'est pas nouveau. Ça fait 25 ans que ça dure. Par exemple, un exemple dans le Sahara. Et puis, il y a des sites pilotes un petit peu partout dans le monde. Il y en a une quinzaine actuellement. Voilà, vous avez compris le système. Plutôt que le carbone s'échappe dans l'atmosphère, on le capte et on le met au chaud. On fait pareil sous les océans. Le problème, c'est que ça coûte cher. Mais bon, je considère que c'est pas un problème. Il y a des sous dans le monde. Tout dépend comment on fait les fléchages. Et l'autre problème, c'est qu'il y a de réelles incertitudes sur le risque. Que vont devenir ces poches sous-marines ou sous-continentales de CO2? Il n'empêche que les choses bougent, mais elles ne bougent pas forcément d'où on le souhaiterait, c'est-à-dire venant d'en haut et nous imposant des choses ou nous invitant à faire des choses. Il y a les manières de faire. Mais voilà, les actions locales vertueuses, il y en a. Donc là, je prends des exemples du réseau Action Climat. Donc à Copenhague, 50% des déplacements sont effectués à vélo. On est dans les transports. On recycle des déchets à Ljubljana. Au Portugal, on est dans les énergies renouvelables. Le mois de mars a été particulièrement, de cette année, a été vertueux. Et puis, on éclaire moins dans les villes. Bon, tout ça, on peut le faire, on sait le faire. Bon. Et je terminerai par quelque chose que je trouve intéressant. C'est très récent. Et je me dis que si ça ne bouge pas, on pourra aboyer autant que l'on voudra, ça ne changera pas. C'est un avis, hein. Après c'est tout à fait discutable. Je vais aller très vite. C'est la Banque d'Angleterre qui demande aux gens qu'elle supervise, commencez à regarder un petit peu le risque climatique. Regardez vos portefeuilles d'actifs. Dans quoi vous investissez? Vous investissez dans les énergies fossiles, des choses comme ça? Attention. On considère désormais que le risque climatique devient systémique. Et dans le milieu bancaire, c'est pas un détail. Donc ce que je veux dire, c'est que le peu de banques, puisqu'il n'y en a que 10% qui sont, j'allais dire, au taquet sur cette question climatique, ces 10% sont peut-être elles ont de la suite dans les idées, mais simplement, il y a 90% des banques qui ne le font pas. L'alerte de la Banque d'Angleterre, à mon sens, c'est un signal. Est-ce que la Banque de France, la Banque d'Espagne, je ne connais pas ce système bancaire, va réagir? C'est peut-être souhaitable parce que c'est de là que vont venir les financements. Certains ont déjà, réagi, les assureurs. Ben oui, forcément, ils sont aux premières loges pour la gestion, en tout cas financière, des catastrophes naturelles. Et comme il y en a de plus en plus, en tout cas, elles sont de plus en plus coûteuses, je dirais plutôt ça, eh bien, elles ont intérêt à changer leur fusil d'épaule. Néanmoins, voilà, 12 octobre de cette année, vous avez un réseau de 18 grandes banques centrales. Je parlais de la Banque de France, etc. Bon, il y a 18 grandes banques centrales qui réaffirment que le risque financier, donc je lis, hein, le risque financier lié au climat menace à long terme l'économie. Si ça menace l'économie, ça menace leurs intérêts, et donc forcément, ils vont se remuer, si je peux me permettre. Il n'y a pas la réserve fédérale américaine, hein. Pas encore. On peut espérer, mais on ne sait pas. La Banque européenne d'investissement, je m'arrête, alloue 1 milliard à des projets d'énergie renouvelable, à la fois en Afrique, Maroc, Cameroun, Mali, Guinée, mais aussi en Europe, c'est quand même la Banque européenne d'investissement, donc en Pologne, en Grèce. Et là, j'évoquerai juste ce concept de finance climat accéléré. Ce concept-là, peut-être qu'on va en entendre parler, qui va être développé. Ma dernière idée, c'est, vous lisez pas, c'est pas la peine. Si vous avez envie de lire, vous lisez, parce qu'il y a trois à lire. Simplement, ce rapport Charney, 1979, disait peu ou prou la même chose que ce que l'on dit aujourd'hui. 1979, on est aux États-Unis. Les démocrates et les républicains, dont on entend parler, qui sont en train de voter, étaient dans un état d'esprit de non-partisan. Ils avaient compris que c'était le climat, c'était tout le monde. Et ce n'était pas une couleur politique plus qu'une autre. Le problème, c'est que donc, tout allait bien. 1979, première conférence sur le climat à Genève. Le problème, c'est que dans les années 90, le climato-scepticisme s'est développé, les pétroliers menant la danse. Et la phrase que dit ce rapport, « attendre pour voir avant d'agir », signifie attendre qu'il soit trop tard, excusez-moi. Il faut bien lire la phrase, mais elle est très révélatrice. On reste optimiste, en tout cas, je le suis encore, j'ai bien dit encore. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Ça veut dire que c'est bien de prévoir des choses, mais qu'il faut aussi vivre le présent, essayer de construire les choses à partir de ce que l'on vit aujourd'hui. Je vous remercie.
Bien, merci Daniel de nous avoir donné ces quelques points de repère, avoir tracé quelques perspectives, surtout des pistes de solutions au niveau global, mais on voit aussi que ça se décline au niveau local. On reviendra évidemment là-dessus avec les autres intervenants. Et puis cela doit nous encourager à continuer la lecture des rapports des scientifiques, hein, donc qui ne datent pas d'aujourd'hui, hein, depuis 1970, mais qui peuvent évidemment continuer à nous éclairer sur l'évolution de la situation. Bernard, vous avez été un des signataires, le seul pictavien signataire de l'appel des 700 scientifiques pour le climat, dont Daniel parlait tout à l'heure. Et donc, pourquoi avoir signé cet appel? Et quel message est-ce que vous voulez nous faire passer sur la question des changements climatiques? On a abordé, bien sûr, les questions d'énergie. Je pense que vous allez aussi, vous, nous parler en particulier des questions liées à l'eau.
Oui, ça marche comment, ça? Je ne suis plus habitué à ce... Voilà, merci, Benoît, c'est ça? Non, oui, c'est ça, c'est bien Benoît. Bon, merci Benoît pour cette présentation. Merci Daniel de bien avoir cadré les connaissances dans le domaine du changement climatique, ce qui me permettra de passer, je le savais d'ailleurs, directement sur un témoignage un peu plus local, on va dire, et plus axé sur l'eau, sur les ressources en eau en général. Comme vous le savez, c'est ma spécialité. Je voudrais quand même dire juste avant que je suis professeur émérite de l'Université de Poitiers. Je ne dis pas ça parce que mon président est là. La preuve, c'est que la diapositive était préparée déjà avant tout. Hein, je suis professeur de l'Université de Poitiers avant tout, mais c'est vrai que je suis membre du groupe Acclimatera, qui regroupe à peu près 500 scientifiques de toute la Nouvelle-Aquitaine et qui travaille sur les effets du changement climatique, notamment en Nouvelle-Aquitaine, tout usage et toute activité confondue, bien sûr. Je m'intéresse particulièrement à l'eau parce que c'était mon métier depuis le début de ma carrière, mais aussi parce que je préside le conseil scientifique de la plus grande agence de l'eau en termes de territoire, pas forcément en termes de budget, mais en termes de territoire, qui est l'agence Adour-Garonne, dont le siège est à Toulouse. Et donc, ce que je vais vous présenter le plus rapidement possible, ce sont des données qui sont extraites du groupe Acclimatera, des données personnelles et des données de l'Agence de l'eau. Alors pourquoi, Benoît, ai-je donc signé cette pétition ? Cet appel, pardon, plus qu'une pétition. Tout d'abord, à cause des constats scientifiques que je connais ou que j'ai pu vérifier la véracité dans la mesure où c'est dans mon domaine de spécialité universitaire. Premier constat, et là je vais contredire, plus insister encore que l'a fait Daniel, la température moyenne observée en Nouvelle-Aquitaine, comme vous le voyez, c'est plus 1,4 degré. Et ça a démarré à peu près, on le voit bien, dans les années 80, par rapport à cette référence zéro. Ça, évidemment, c'est un delta plus et là, un delta moins. Ce n'est pas zéro degré, hein, c'est le plus ou le moins. Vous voyez qu'on a, et évidemment, 2016, 2017 et 2018 ne sont pas reportés, mais on est à plus 1,4. Excusez-moi, je suis un petit peu encore en décalage horaire. Je suis arrivé du Vietnam hier matin à 5 heures du matin, donc, et puis j'ai passé toute la journée à Paris aujourd'hui. Donc, et ce qui représente à peu près l'élévation de température de la France. Moi, je suis plus sur les données que j'ai, alors on n'a peut-être pas tout à fait les mêmes données, à plus 1,5 sur la France, plutôt que plus 1 depuis les années 70-80. Donc c'est grave. Alors, si je regarde maintenant la pluviométrie, la pluviométrie, tout compte fait, alors là, ce sont des données de Météo France, hein, toujours sur la Nouvelle-Aquitaine, comme vous voyez, semble à peu près semblable, depuis, identique, on va dire, depuis les années 60, mais il s'agit de pluviométrie annuelle. Et devons-nous raisonner, c'est la question qu'on s'est posée avec Hervé Le Treut, qui est donc l'académicien que vous connaissez, climatologue, et qui préside le groupe Acclimatera, on s'est posé la question, c'est probablement pas justifié de raisonner en cumul annuel. Parce que si le cumul annuel est identique aujourd'hui et hier, la répartition dans l'année, vous voyez bien, notamment les périodes de sécheresse en été, sont probablement plus importantes aujourd'hui, on n'a pas fait l'analyse encore, qu'elles étaient dans les années, dans la fin du XXe siècle. Si je regarde maintenant les régimes hydrologiques, ce sont des faits, ça, ce sont des constats, ce ne sont pas des prévisions. D'accord ? Eh bien, vous voyez ce régime hydrologique, là il s'agit de la Garonne et de la Dordogne. En 50 ans, on a perdu près de 30% du débit. Alors, est-ce dû au prélèvement ? Est-ce dû au changement climatique ? Probablement un peu des deux. Mais il faut analyser la situation, c'est un peu plus difficile, bien sûr, de le faire, mais ça peut être fait. Mais ça, ce sont des données qu'on a récupérées dans le cadre du travail d'Acclimatera. Je vous montrerai l'ouvrage juste après. Pour ce qui concerne la température des eaux de surface, alors là, on est bien chez nous, même, puisqu'il s'agit de la Charente, de la Sèvres-Niortaise à Niort et de la Vienne. Vous voyez l'augmentation, et ce sont les données que j'ai récupéré. J'ai mis le logo Acclimatera parce qu'on les a publiés dans l'ouvrage d'Acclimatera, mais c'est l'Observatoire régional de l'environnement, maintenant Agence régionale de biodiversité Nouvelle-Aquitaine, qui m'a fait le travail. Et vous voyez qu'on est, je reviens, à plus 1,5 degrés ces 40 dernières années. de température de l'eau, ce qui correspond en fait à l'augmentation de température de l'air dont je parlais tout à l'heure. On a bien un deuxième élément ici démontrant l'augmentation de la température importante en Nouvelle-Aquitaine et donc sur notre territoire. Alors il y a d'autres constats. Hein, je m'excuse auprès de ceux qui m'ont déjà entendu parce que je fais une conférence par semaine actuellement ou tous les 15 jours et donc ils ont déjà vu ces données. Mais j'aurais pu parler d'autres constats, par exemple l'augmentation de l'étendue des sécheresses agricoles en Nouvelle-Aquitaine hein, de 6 à 7%. Le dépérissement des espèces par stress hydrique des espèces d'arbres dans les forêts, sur les fruits et les vignobles, le mûrissement trop rapide des fruits, les vendanges précoces, augmentation de la teneur en alcool dans les vins, tout ça vous savez, on vous en a déjà parlé, la migration des écosystèmes dont on parle moins. Par exemple, dans l'estuaire de la Garonne, on voit les anchois augmenter, les éperlans diminuer, dû à l'augmentation de la salinité, dû à l'augmentation, bien sûr, du niveau de la mer. On observe même, sur plusieurs décennies, le déplacement de certaines espèces végétales, comme le hêtre, qui se déplace de plus en plus vers des altitudes de plus en plus élevées pour aller chercher le frais. Donc tout ça, ce sont des constats actuels. Alors sans compter, évidemment, ce dont la presse parle plus souvent, les cyanobactéries, le moustique tigre, la diminution de l'enneigement, la fonte des glaciers, on en parlait tout à l'heure, l'érosion côtière qui est chez nous très importante, malgré ce que tu disais tout à l'heure, il y a les phénomènes d'érosion sur la côte atlantique qui sont phénoménaux aujourd'hui. Alors, il n'y a pas que les constats qui m'ont poussé à signer. Il y a aussi des prévisions sur les impacts du changement climatique. Je vais rester dans le domaine de l'eau. Alors, on va faire un tout petit peu de science, quelques minutes. Vous avez ici, alors ça c'est un travail, désolé Yves, mais nous n'avons pas de climatologue à Poitiers, mais il y en a en France, Dieu merci, et il y en a un à Toulouse. Alors, il y a une équipe à Toulouse qui a fait passer une thèse. C'est pas récent, vous voyez, c'est 2015, mais quand même, ce sont les travaux particulièrement récents, où là, l'étudiant a modélisé l'évolution des climats sur la France. Sur la France, je parle de la France, et il l'a fait par période, et il a fait, et là, je vous reproduis que juin, juillet, août, hein, parce que, évidemment, c'est la période la plus démonstrative, mais il l'a fait aussi pour janvier, février, mars, etc. Pour l'hiver, pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Et vous avez ici les quatre modèles du GIEC. C'est les quatre modèles qui ont été publiés sur le rapport 2013-2014, le cinquième rapport. Le dernier rapport qui est sorti, on s'en est assuré, n'a pas modifié ces modèles. Les modèles s'appellent RCP-2-6, il y a le point qu'on a oublié ici, hein. RCP-4-5, RCP-6 et RCP-8-5. Alors, je n'ai pas le temps de vous expliquer exactement à quoi s'agit 2-6, 4-5, 6 et 8,5, c'est des watts par mètre carré de forçage radiatif. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le RCP 8,5 est le modèle le plus pessimiste et le 2,6 est le modèle, bien évidemment, le plus optimiste. Et là, vous avez donc les courbes d'évolution de la température en France, la température de l'air. Ici, il s'agit de température de l'air, mais on a vu qu'on retrouvait à peu près la même évolution de la température de l'eau, des années 70-80 jusqu'aux années 2080-2090, c'est-à-dire à peu près un siècle. Et vous voyez en couleur, alors les lignes pleines, on va prendre la ligne rouge ici, et vous voyez également l'incertitude. Alors, ce n'est pas une incertitude au sens qu'on n'est pas certain de cette évolution. Mais c'est l'erreur que l'on peut faire parce qu'évidemment, pour décliner la science pour arriver à ces modèles, bien sûr, il faut tenir compte des écarts-types, ce qu'on appelle les écarts-types dans le domaine scientifique, qui font qu'on peut se tromper en moins jusqu'à ce pointillé rouge, mais on peut se tromper aussi en plus jusqu'à ce pointillé rouge. Donc, en fait, la superposition n'est pas facile à lire, mais j'ai quand même essayé de le faire. Et ce qui est intéressant, j'ai presque fini, c'est de dire, mais si on compare ces évolutions prédictives à ce qu'on mesure en termes de constats aujourd'hui, Eh bien, qu'est-ce qu'on voit si on regarde vers 2015? Eh bien, 2015, vous voyez que la courbe rouge pleine, la verte, la bleue et la jaune sont presque confondues. C'est-à-dire que suivant le modèle pessimiste ou optimiste, c'est pas avant 2020 qu'on commencera à se voir, à voir se détacher les courbes. Donc ça veut dire qu'on est quelque part, on devrait être quelque part entre là, parce que la courbe bleue passe dessous la courbe jaune, et là, c'est-à-dire, vous voyez, plus 1,5 à plus 1,7 degrés. L'été, pour les mois de juin, juillet, août. C'est ce qu'on observe, tout compte fait, en France, aujourd'hui, en 2015. Alors on peut se dire, où est-ce qu'on sera en 2050? Serons-nous là? C'est ce que prévoit la COP21. Hein, le plus 2 en 2050, où serons-nous là? C'est-à-dire le plus 4. Actuellement, on n'est pas capable de le dire, mais le modèle bleu, pour votre information, part du principe qu'on aura complètement éliminé ou au moins stabilisé, pour suivre la ligne jaune, voire la verte, les émissions de gaz à effet de serre. La ligne rouge, elle, considère qu'on n'a rien fait et qu'on a continué jusqu'en 2050 à consommer des énergies fossiles et à rejeter des gaz à effet de serre, notamment du CO2. Donc évidemment, c'est inquiétant, et c'est également pour cela que j'ai signé l'appel. Maintenant, si on regarde les études de l'Agence de l'eau, c'est mon avant-dernière diapo. Donc, il s'agit maintenant de l'agence Adour-Garonne. Je travaille là-dessus dans ce qu'ils appellent le G4 en Adour-Garonne, c'est-à-dire le président de Nouvelle-Aquitaine, la présidente d'Occitanie, le président du comité de bassin de l'agence de l'eau et le préfet de région Occitanie, qui est le préfet de bassin également. Ils font souvent appel à moi pour faire des présentations ou pour essayer de convaincre le public du problème autour de l'eau. Donc on a fait des prévisions avec les scientifiques du conseil scientifique de l'agence, mais en s'appuyant aussi évidemment sur des experts extérieurs. On a fait des prévisions basées sur une augmentation de température de 2 degrés, une diminution des précipitations de moins 5 à moins 15% en moyenne, pour la Nouvelle-Aquitaine et pour l'Occitanie également d'ailleurs, une diminution de la durée d'enneigement, une augmentation de l'évapotranspiration qu'on estime comprise entre plus 10 à plus 30%, une augmentation de la sécheresse des sols, comme je vous disais tout à l'heure, une tendance à la baisse de la recharge des nappes, et on arrive à ça. On arrive à une forte diminution des débits en 2050, qu'on estime entre moins 20 et moins 40% pour tous les cours d'eau. Pour tous les cours d'eau, la Garonne comprise. Avec des débits d'étiage en été qui peuvent atteindre jusqu'à moins 50%. Alors, les politiques nous ont dit, ok, d'accord, dites-nous combien, qu'est-ce que ça représente? On va manquer combien d'eau? On a fait l'estimation pour le Grand Sud-Ouest, hein, je parle, Nouvelle-Aquitaine, presque la totalité, parce que le nord de Nouvelle-Aquitaine n'est pas couvert par cette agence-là, par une autre, mais on peut considérer que c'est à peu près la même chose. Et pour l'Occitanie, on manquera de 1 milliard 200 millions de mètres cubes en 2050, c'est-à-dire la moitié de ce dont on a besoin pendant la période estivale, si on ne change pas nos consommations, bien évidemment. Donc évidemment, les élus se disent, mais comment on va faire? La population de Bordeaux va augmenter très vite, celle de Toulouse aussi, celle de Poitiers probablement aussi, tout le littoral atlantique également. Comment on va faire pour alimenter nos potables? Comment on va faire pour refroidir nos centrales nucléaires? Comment on va faire pour faire de l'énergie hydroélectrique? Comment on va faire pour irriguer et évidemment continuer à faire développer l'agriculture? Donc toutes ces questions se posent. Donc estimation probable, je vous disais, manque de 50% d'eau de surface par rapport aux besoins actuels en période estivale. Et là, on ne parle que d'eau de surface. Pour finir, est-ce que la qualité de l'eau va évoluer aussi? Ben oui. Bon, il y a une superposition, là, parce qu'il y a probablement un manque de compatibilité entre mon ordinateur et celui-là. La température des eaux superficielles va augmenter. Donc il va y avoir des impacts certains sur la migration des espèces. Ça, on en est sûr, on l'observe déjà. Sur des espèces qui vont aller vers des eaux plus froides, hein, des espèces de poissons, par exemple, sur l'augmentation des espèces invasives, par exemple les cyanobactéries dont je parlais tout à l'heure, qu'on appelle encore les algues bleues, sur lesquelles on sait qu'il y a des risques de toxicité parce que ces algues émettent des endotoxines très dangereuses pour les animaux et pour l'homme. Si l'homme en boit, par exemple, lors de la baignade, c'est pour ça qu'en Poitou-Charente, souvenez-vous, cet été, il y a eu 4-5 baignades qui ont été interdites pendant plusieurs mois à cause des cyanophysées. Mais on aura aussi d'autres modifications sur les processus biogéochimiques, sur les usages, bien sûr. Et la pollution des eaux va s'accentuer aussi, évidemment, puisqu'on va diminuer le débit. Donc si les rejets sont les mêmes, l'auto-épuration, la dilution sera évidemment diminuée par deux, grossièrement. Peut-être que l'impact sera encore plus important. Et évidemment, la biodiversité aquatique qui en souffrira le plus parce que ces augmentations de température, ça joue aussi sur les mécanismes de toxicité des espèces. Alors les enjeux, je terminerai là-dessus. J'avais quelques diapos sur les ressources en eau dans le monde, mais on les repassera plus tard si vous voulez bien. Les modèles de prévision, avec leur incertitude, prévoient plus 1,5 à 2,8 degrés à l'horizon de 2050 en France, hein, par rapport à une période repère qui est dans les 20 dernières années du 20e siècle. Ça, dans les meilleurs des cas, et jusqu'à plus 6 degrés d'ici la fin du siècle, c'est en 2100, avec le scénario le plus pessimiste. Donc, il n'y a pas 50 solutions, et c'est aussi pour ça que j'ai signé. Le seul moyen de freiner cette évolution à l'échelle de la planète, et donc à l'échelle aussi de notre pays et évidemment de notre région, c'est de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il n'y a pas d'autre solution, c'est ce qu'on appelle l'atténuation. Alors, Daniel a donné un certain nombre de solutions. On pourra débattre sur les solutions. Je ne vais pas vous donner les solutions aujourd'hui. Et d'ailleurs, on va retomber sur les mêmes conclusions de Daniel. Mais si rien n'est fait, c'est sûr que certaines modifications pourraient devenir irréversibles au-delà de la moitié du 21e siècle. Ce que dit le dernier rapport du GIEC, c'est ça. Et c'est pour ça que les scientifiques ont signé dans ce sens pour dire au gouvernement, faites quelque chose. Faites quelque chose. Mais vous savez, le problème de l'eau sur la Nouvelle-Aquitaine, on a estimé les coûts aussi. C'est 5 milliards d'euros à peu près qu'il faudrait mettre en œuvre très rapidement, et non pas pour de l'atténuation, mais pour de l'adaptation, c'est-à-dire pour s'adapter aux baisses des débits. Alors, pour l'atténuation, même si Daniel dit que l'argent, on peut le trouver, c'est peut-être pas si évident que ça. Les discours, par contre, on les entend. J'étais encore récemment au Vietnam, en délégation avec le Premier ministre, et il y a eu des discours, des signatures, un certain nombre de choses, et que ce soit le Premier ministre vietnamien comme le Premier ministre français, ils tenaient exactement le même discours, on va serrer les coudes, on va faire ça ensemble, on va arrêter d'émettre des gaz à effet de serre. Ce sont des discours. En 2017, la France a augmenté sa production de gaz à effet de serre, alors que les 10 dernières années, elle l'avait diminué. Mais elle avait diminué, vous savez pourquoi ? Quand on regarde les 4 sources de gaz à effet de serre, agriculture, industrie, transport, résidentiel, eh bien c'est l'agriculture et l'industrie qui avaient diminué à cause de la fermeture des industries ou des exploitations agricoles. Mais il y a un moment où on ne ferme plus, où on ferme moins. Les deux autres secteurs, transport et résidentiel, ont continué à augmenter et augmentent toujours. Et aujourd'hui, la totalité fait qu'on a dû augmenter, je n'ai plus le chiffre en tête, parce que j'ai l'entendu mais pas vérifié, de 5-10% en 2017 des gaz à effet de serre. Donc évidemment, les impacts sur les ressources en eau de notre pays. J'avais ça dans la conclusion d'une diapo. Je n'ai pas préparé les diapos spécialement pour vous, je m'en excuse. C'est des diapos que j'avais déjà. Et comme je rentre juste de déplacement, il y avait aussi un petit paragraphe sur l'eau. Les impacts sur les ressources en eau de notre pays seront très importants, notamment sur le Grand Sud-Ouest. Et il faut s'y préparer également et il faut s'adapter également à cette situation. Merci, mesdames, messieurs.
Écoute, merci beaucoup Bernard, parce que pour nous, je dirais, les travaux des scientifiques et la communication des scientifiques sur leurs travaux est fondamentale. Pendant très longtemps, les scientifiques sont un peu restés dans leur laboratoire, où certains n'ont pas voulu forcément communiquer vers l'extérieur. Et aujourd'hui, cette communication, enfin, qui a commencé dans les années 70, est vraiment fondamentale, notamment pour comprendre les enjeux effectivement du changement climatique. Donc merci pour les repères que tu as donnés, pour les quelques pistes de solutions que tu as aussi présentées. Je pense qu'on peut aussi faire le constat que malheureusement, les réponses apportées par les États, malgré la COP21, ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux. Les États sont aujourd'hui en faillite par rapport aux défis qu'il faudrait effectivement relever. Alors, il faut dire quand même que tu as cassé un petit peu l'ambiance, là. C'est vrai qu'on est maintenant un petit peu dans une phase pessimiste. Alors, si les États ne relèvent pas les défis, peut-être que les territoires vont pouvoir les relever. Et ça va être la tâche qui va être confiée à Myriam, de nous remonter un petit peu le moral. On va se déplacer un petit peu vers l'Afrique, qui est un continent, comme on l'a vu tout à l'heure dans notre quiz, qui est quand même aussi très affecté par l'évolution du climat. Et la difficulté supplémentaire en Afrique, c'est que les populations, une bonne partie des populations qui vit encore au milieu rural, dépendent directement de l'évolution de l'environnement, des ressources de l'environnement. Et lorsque ces ressources, que ce soit l'eau, que ce soit la terre, que ce soit les pollutions, etc., sont remises en question, eh bien c'est le quotidien, je dirais, des populations qui est touché. Alors, Myriam va nous présenter une initiative, même des initiatives, parce qu'il y en a plusieurs, il y a un S, l'initiative, qui montre aussi comment, finalement, dans des contextes difficiles, eh bien, des acteurs sur le territoire s'organisent, prennent des initiatives pour essayer, bien sûr, d'atténuer, de faire des mesures d'atténuation, mais surtout d'adaptation, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est s'adapter aux nouvelles conditions qui sont imposées par l'évolution du climat.
Merci Benoît, merci, je tiens à remercier les intervenants précédents parce que c'est important de poser le contexte. L'analyse scientifique est très importante à partager, à vulgariser, comme disait Benoît. Et je pense que heureusement d'ailleurs qu'il y a l'approche scientifique qui a poussé la communauté internationale, qui a alerté la communauté internationale pour qu'elle puisse prendre des positions, des décisions. Donc moi je voulais juste rappeler qu'effectivement il y a l'approche scientifique qui a été présentée par les intervenants précédents. Il y a l'approche onusienne qui pousse l'ensemble des pays, l'ensemble des gouvernements à s'engager pour prendre les mesures nécessaires de lutte contre les changements climatiques et donc qui pousse aussi, qui impose aux différents pays signataires des différentes conventions, notamment la convention climat, pour que dans chaque pays, le gouvernement, l'État, puisse mettre en place une politique climat nationale qui devrait être déclinée au niveau des territoires. Donc il y a l'approche onusienne et l'approche pays-État. Donc l'approche onusienne, comme vous le savez, cette année, on va voir la COP24. Ça veut dire que ça fait 24 ans que les États négocient pour essayer de trouver un consensus et se mettre d'accord autour de la même table sur les mesures à prendre à mettre en œuvre pour lutter contre le changement climatique. Et donc, comme vous le savez, dès qu'on descend au niveau pays, gouvernement, État, il y a des enjeux politiques. qui sont prioritaires. Donc, en fonction de chaque pays, il y a des priorités qui peuvent être sociales, économiques et peut-être pas climatiques. Donc, c'est vrai que la difficulté des négociations, c'est aussi ça. C'est comment se mettre d'accord pays développé, pays en développement sur les mêmes constats et prendre les mêmes décisions, enfin, de manière partagée, mais bien entendu différenciée. C'est un des principes de la Convention climat. Et donc, là aussi, c'est une difficulté parce qu'on n'a pas les mêmes priorités. Les pays du Nord sont concernés plus par les questions d'atténuation en termes de réponse. Les pays du Sud, ils sont moins responsables des émissions de gaz à effet de serre, mais ils en subissent les conséquences. Et c'est vrai que c'est ce qui complique globalement les négociations internationales et qui fait qu'à ce stade-là, à mon avis, je ne sais pas si on va vraiment avancer, mais en tout cas, dans 10 ans, la communauté internationale continuera à négocier, à essayer de trouver des consensus pour passer à l'action. Et donc nous, Benoît et moi, on s'est dit, on ne va pas attendre, c'est même pas nous qui n'attendons pas, c'est que les populations locales, notamment celles qui subissent les conséquences du changement climatique, ne peuvent pas attendre pour une question de survie. Donc pour une question de survie, On constate qu'il y a des solutions, des initiatives, des actions, des projets portés par différents acteurs, mais qui contribuent à la lutte contre le changement climatique, soit à travers des actions d'adaptation ou d'atténuation. Mais voilà, enfin, les populations n'attendent pas. Donc soit elles disparaissent, soit elles essayent de s'adapter avec les moyens qu'elles ont, avec leur savoir-faire locaux, traditionnels ou modernes, mais en tout cas elles agissent. Et donc c'est ce qui nous a intéressé avec Benoît depuis maintenant 3 ans, sachant que ça fait une dizaine d'années qu'on s'intéresse à cette question-là. Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, ça a été dit par Daniel à l'ouverture de la conférence. Est-ce qu'on reste sur une note pessimiste en regardant les constats et les analyses des scientifiques ? Est-ce qu'on reste attentif aux négociations des pays et on attend que chaque pays agisse ? Ou est-ce qu'on va voir qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain et on est sur plutôt une approche positive en disant qu'aujourd'hui, de toutes les façons, il faut agir. Mais qu'est-ce qui se fait concrètement sur le terrain ? Alors, on a constaté qu'effectivement, il y a énormément d'actions, d'initiatives portées par différents acteurs, qu'ils soient les acteurs... Enfin, ce qu'on appelle les acteurs de la société civile, ça peut être des associations, des coopératives, des groupements villageois, mais aussi des jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneuses, ou encore les collectivités territoriales qui, pour nous, sont des acteurs incontournables dans l'action climatique. Et donc, on est convaincus que tout se passera dans les territoires et les réponses vont venir des territoires. Et donc l'idée, c'est comment rapprocher, comment faire connaître ce qui se fait sur les terrains, comment rendre visible et partager ces initiatives positives et comment les gouvernements pourraient s'en inspirer pour élaborer leurs politiques publiques, quelle que soit l'échelle, nationale, régionale ou internationale. Mais en tout cas, il y avait un vrai fossé entre les scientifiques d'une part, les gouvernements à travers la communauté internationale et les négociations d'autre part, et les actions, eux, qui au quotidien subissent, mais ils essayent de trouver des alternatives. Et donc, c'est l'objectif du programme Initiative Climat Afrique francophone. Pourquoi l'Afrique francophone ? Pourquoi l'Afrique, tout d'abord ? Parce que c'est le continent qui subit le plus les conséquences liées au changement climatique et qui est plus concerné par l'adaptation et urgent de trouver des solutions au niveau de ces territoires. Pourquoi la francophonie ? Pourquoi l'Afrique francophone ? Parce que connaissant l'espace anglo-saxon, on s'est rendu compte que ce sont des pays qui sont beaucoup plus organisés, qui ont beaucoup plus de moyens, qui contribuent et participent généralement aux négociations internationales. Ils sont présents comme acteurs parallèles, ce qu'on appelle la diplomatie parallèle, dans les conférences climat. Et le maillon faible dans ces négociations en tant que partie prenante, en tant qu'acteur, on a constaté que ce sont les acteurs d'Afrique francophone. Et donc c'est ce qui a justifié notre action et de travailler travailler, de nous concentrer sur cet espace-là. Et de toutes les façons, on n'avait pas les moyens de travailler sur tous les pays. Donc, il a fallu vraiment se concentrer sur un territoire. Un territoire pour nous où il y a effectivement de grands enjeux climatiques et de grandes problématiques liées à l'adaptation. Mais il y a aussi une dynamique qui est naissante. Il y a un capital humain. Il y a des énergies qui sont dans ces territoires africains et qui nous ont inspirés pour et nous ont poussés à aller plus voir qu'est-ce qui se passe vraiment sur ces territoires. Alors, l'objectif du programme Initiative Climat, c'est tout d'abord contribuer à la prise de conscience sur les enjeux des changements climatiques et de leurs impacts sur les développements humains, mais plutôt avec une approche, comme je disais, positive. Donc l'idée, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain et qui n'est pas visible, qui n'est pas connu, et donner un peu de lumière à ces projets-là, les valoriser en mettant en exergue les projets les plus exemplaires, pour qu'ils soient inspirants, transférables, réplicables dans d'autres territoires, et favoriser aussi une meilleure connaissance des porteurs de projets entre eux, tout en renforçant leurs capacités. Parce qu'on s'est rendu compte que les projets dans les territoires, que ce soit au fin fond de la mangrove, que ce soit au fin fond des oasis, ou que ce soit en plein forêt africaine, les acteurs du territoire se sentent vraiment isolés. C'est-à-dire qu'ils agissent, ils apportent des solutions, mais ils se retrouvent vraiment tout seuls dans leur territoire, notamment les associations. Ils n'ont aucune reconnaissance de la part de leurs politiques, de leurs décideurs, que ce soit au niveau local, au niveau village, commune, région, et encore moins par les gouvernements. Et donc, c'était important de créer effectivement cette dynamique-là et ce réseau pour que tout le monde se rende compte que les problématiques sont finalement similaires dans les différents territoires. Les réponses sont différenciées, mais il y a quelque chose à partager, à faire connaître. Donc c'était vraiment la logique, notre logique, quand on a monté ce projet-là. Alors, de quoi s'agit-il aujourd'hui ? Enfin, juste rapidement, comment on fonctionne. L'idée, c'était de créer une plateforme Internet, une base de données de projets qui ont le moins de visibilité. Comme vous le savez, les plus grandes, enfin, ceux qui... les actions les plus visibles sont portées par les acteurs qui sont dans ces réseaux-là, qui ont vraiment accès aux politiques, ils ont accès à des conférences internationales. Or, les initiatives les plus intéressantes ont beaucoup moins de visibilité. Donc l'idée, c'était de créer une plateforme Internet pour donner une visibilité à ces projets-là. Donc il y a tout un gros travail de recueil pour aller les chercher dans les 22 pays maintenant concernés. Donc à fin juin, donc tous les ans depuis, donc on a démarré à la COP21, en testant le concept, en disant OK, les négociations vont continuer. Vous, Africains, qu'est-ce qui vous intéresse et comment vous voyez les choses? Donc, on a testé le concept et effectivement, tout le monde était d'accord que, parallèlement à ce que font les États, peut-être qu'il faut donner un peu plus de lumière au projet du territoire. Donc, il y a un recueil qui est disponible, une sorte de base de données sur la plateforme. Donc, en juin, on a lancé le premier recueil en 2016, deuxième édition en 2018, et à la fin de juin, c'était la deuxième édition, le recueil comportait 172 initiatives climat de 21 pays d'Afrique francophone. Donc pour nous, c'était quand même assez extraordinaire, parce qu'on ne pensait pas qu'il y en avait autant d'actions sur le territoire qui sont portées par différents acteurs. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a reçu en 2017, 450. Cette année, on est à 500 initiatives. Je vous en parlerai par la suite, qui ont été reçues. Et nous avons mis en place des critères d'éligibilité assez exigeants pour ne retenir que les projets ayant déjà des réalisations, des actions concrètes avec des résultats tangibles. L'idée étant, bien entendu, ne pas avoir, parce que sinon on avait le recueil de tous les projets d'intention, on en aurait des centaines. On s'était appuyé d'ailleurs sur la base de données pour la COP22, Benoît, la base de données qui a été élaborée par Mme Ségolène Royal, d'ailleurs. Comment ça s'appelle ? Je ne me rappelle plus. 1000 projets pour la planète. On avait creusé sur cette base-là, cette base de données, et sincèrement, on n'en a pas trouvé beaucoup qui avaient une antériorité des résultats, des actions, parce que l'idée, c'était quelles sont les solutions qui pourraient être transférables, réplicables, démultipliables, partagées à une plus grande échelle. Donc les critères d'éligibilité sont assez exigeants pour qu'on puisse vraiment ne retenir que les projets qui pourraient être inspirants. Donc bien entendu, on en a recensé plus issus des organisations de la société civile, à moindre échelle les projets des jeunes entrepreneurs. On s'intéresse aussi aux entrepreneurs femmes, et puis à la troisième catégorie qui sont les collectivités territoriales. Donc aujourd'hui, cette année, l'édition 2018, on s'est intéressé plutôt aux collectivités territoriales. Donc Benoît revient du Maroc, vendredi dernier, on a organisé notre jury, et cette fois-ci, le challenge, c'était d'élargir le recueil, pas uniquement aux collectivités francophones, mais aussi aux collectivités anglophones. Et on a été agréablement surpris, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'on allait recevoir comme initiative, sachant, parce que vous allez me poser la question, mais comment vous accédez à ces initiatives qui n'ont à la base aucune visibilité. Donc ça, c'est tout un travail, effectivement, de diffusion. On se base sur un certain nombre de réseaux, d'organisations nationales, internationales, notamment nos partenaires. Je vais vous en parler à la fin. Donc, on a reçu 31 initiatives de collectivités territoriales africaines, anglophones et francophones. Et le jury a retenu 9 collectivités qui vont être invitées à un sommet. Je ne sais pas si vous avez entendu parler. Le sommet Africité, c'est le plus grand sommet des collectivités territoriales africaines qui se réunit tous les 3 ans. Et donc, les lauréats vont être connus lors du sommet. Et donc, tous les ans, la COP22, la COP23 et cette année, on organise une cérémonie de remise de trophées. Et bon, après, on pourra nous discuter parce que ça a l'air de rien. Mais le fait que les projets, que les lauréats aient cette reconnaissance, cette visibilité, une reconnaissance à travers les trophées qu'on organise tous les ans et donc un prix, le fait qu'ils aient la possibilité et l'occasion de participer à une conférence climat, vous savez, ça fait peur, hein, les conférences climat onusiennes, rien que l'accréditation, pour avoir l'accréditation pour ceux qui le connaissent, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc le fait de pouvoir leur ouvrir cet espace, cette plateforme, et qu'ils puissent, alors qu'ils se sentaient isolés, rencontrer d'autres acteurs d'autres pays, rencontrer leurs délégation officielle. On a à la COP22 à Marrakech, on a eu quand même des présidents, des délégations officielles qui sont venues chercher les acteurs de la société civile de leur pays, alors qu'ils n'avaient fait aucun effort pour les aider à avoir leur visa ou leur accréditation pour qu'ils puissent, encore moins la prise en charge, pour qu'ils puissent participer à ces conférences. Donc juste pour dire que voilà, c'est une action aussi sur la participation. Sur la participation, enfin, donner la voix aussi à ces acteurs de la société civile lors de conférences internationales est aussi important que de les recenser et de les reconnaître à travers les trophées qu'ils ont. Je pense que c'est important, Benoît, parce que c'est vraiment l'idée, c'est vraiment d'élargir l'échange entre les différents, enfin, donner l'espace aussi aux acteurs qui n'ont pas cet espace de participer à ces conférences. Alors, je passe, donc on a tout un travail de documentation des initiatives climat, parce que ce qu'il faut savoir, effectivement, c'est les projets les plus intéressants sont les moins formulés, c'est des gens qui sont sur le terrain, qui n'en ont pas forcément l'expertise, la connaissance de rédiger, ça paraît simple, hein, mais rédiger une fiche projet avec des objectifs, avec des résultats, avec ne serait-ce que voilà une page, c'est très délicat. Donc on fait ce travail aussi d'accompagnement, qui est aussi un moyen de renforcement de capacité de ces acteurs de la société civile, mais aussi lier ce qu'ils font, parce que souvent ils agissent, mais ils lient pas ça aux politiques climat ni adaptation. Ils ne s'inscrivent pas dans une logique adaptation, une logique atténuation. On va voir des expériences. On essaie aussi de leur dire, voilà, là où vous êtes, vous avez un impact et vous contribuez à l'action climatique au niveau de votre village, communauté, mais aussi pays, mais aussi au niveau international. Et donc, avec Benoît, on réalise un certain nombre de reportages parce qu'on se rend compte que l'audiovisuel est assez important, ça simplifie, ça vulgarise des initiatives et des projets qui peuvent paraître un peu compliqués. Donc, je passe les événements pendant les COP et parallèles. Et puis, on a la plateforme que je vous invite à consulter, qui est une vraie base de données que vous pouvez rechercher soit par type d'acteur, par thématique, par pays, et là vous cliquez et vous avez ce qui se fait en termes d'énergie dans tel pays ou telle région d'Afrique. Et puis ce qui est intéressant, parce que c'est aussi la démultiplication de l'action et la vulgarisation de l'action, c'est aussi d'avoir des relais comme vous le savez. Bon, il y a des initiatives qui sont isolées, mais il nous a paru important aussi d'avoir des représentants, une sorte d'ambassadeur dans chaque pays qui va lui-même accompagner, appuyer, parrainer d'autres projets et leur montrer l'importance de contribuer, de participer en étant visible à toute cette dynamique-là. Donc aujourd'hui, on a 19 correspondants, ce qu'on appelle les correspondants pays, de 11 pays, qui jouent un rôle très très important aussi en termes de repérage et de vérification des initiatives que nous avons repérées. Alors, rapidement, une fois que j'ai dit tout ça, sur les 200 initiatives que nous avons aujourd'hui recueillies, on voulait partager avec vous concrètement de quoi s'agit-il. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quel que soit le type d'acteur, on est en Afrique, donc c'est beaucoup plus d'actions liées à l'adaptation qui sont plus recensées que les actions d'atténuation. Les actions d'atténuation sont portées plutôt par les États. Vous avez présenté l'exemple du Maroc. Enfin, quand on parle d'atténuation, c'est les énergies renouvelables. C'est vraiment de grands investissements. Donc, c'est plutôt porté par l'État. Alors que les collectivités ou les acteurs non étatiques ou les acteurs du territoire sont animés plutôt par des projets d'adaptation. Alors, quand on parle de projets d'adaptation, ça peut être des projets en lien avec l'eau, ça peut être des projets en lien avec l'agriculture, ça peut être des projets de replantation, de reforestation, de valorisation énergétique des déchets, mais c'est des projets d'acteurs territoriaux qui touchent pratiquement tous les sujets et toutes les thématiques. On était vraiment agréablement surpris. Donc, juste pour vous donner quelques retours d'expérience, par exemple pour les entrepreneurs verts africains, on a recensé, on était agréablement surpris de voir la dynamique portée par les jeunes, notamment en termes d'innovation sur ces questions de lutte contre le changement climatique. Et on peut avoir des projets en matière d'énergie solaire, par exemple au Burkina Faso. C'est un jeune qui voulait que l'électricité soit accessible à tous pour son village, parce qu'il en a souffert quand il était jeune. Et donc c'est un jeune ingénieur qui a eu la chance de faire des études et qui a décidé de revenir dans son pays et d'installer des systèmes dans son village et d'installer des systèmes photovoltaïques de puissance 45 kW à usage domestique pour satisfaire les besoins de la population semi-urbaine de la ville de Koudoukou. Il fait également du suivi de la maintenance du système photovoltaïque, mais il intervient aussi dans l'installation de systèmes de pompage solaire qui a contribué à améliorer les conditions de vie des agriculteurs. On peut aussi citer tout ce qui est, on en a parlé au début, le charbon vert. C'est vraiment une des révélations, c'est une thématique vraiment pour nous, c'était une révélation pour nous de constater qu'il y a toute une niche, un gisement d'emploi, de création d'activités pour les jeunes autour de la valorisation des déchets et la production du charbon vert. Donc on en a beaucoup. Là, il y a un projet au Maroc, mais notre projet phare, et je pense qu'il y en a qui ont eu l'occasion de voir le reportage de Benoît, qui est au Cameroun et qui est pour nous un modèle d'entrepreneuriat porté par les jeunes. On peut citer le Bénin à travers notamment l'action sur l'agriculture durable et résiliente. Ça, c'est aussi une thématique sur laquelle on a trouvé énormément de projets. Et donc, c'est aussi en lien avec la sécurité alimentaire. D'abord, c'est comment contribuer à l'amélioration de la sécurité alimentaire en adoptant des produits, des approches et des techniques agroécologiques. Et il y a toute une réflexion qui est assez intéressante que nous avons découvert auprès des jeunes, qui sont les semences qu'on appelle les semences résilientes, autochtones, locales, paysannes. Comme vous le savez, les semences, c'est très important pour la sécurité alimentaire. Et les jeunes, vous voyez bien qu'il y a vraiment une prise de conscience des jeunes sur des enjeux globaux, mais avec des actions très locales et très, très concrètes. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là qu'on passe le film. Hein ? Alors, juste un petit détail, parce qu'on a fait l'année dernière une étude sur la jeunesse et l'entrepreneuriat vert en Afrique. On voulait vraiment comprendre quelle est la situation, parce qu'on parle de l'économie verte comme étant une opportunité de création d'emplois. On voulait en savoir un peu plus par rapport à la problématique du chômage des jeunes au niveau de l'Afrique. Et ben, notre constat, c'est qu'il y a effectivement de jeunes issus qui ont fait des études supérieures, des ingénieurs, beaucoup plus que les jeunes qui ont fait moins d'études. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a la dimension innovation technologique, mais il y a surtout une spécificité, je pense, des jeunes entrepreneurs africains qui sont plutôt sur une base, une approche communautaire. C'est-à-dire qu'on va voir un jeune, il va faire effectivement une innovation technologique, mais il va la mettre au service de la population. Et ça a été vraiment une spécificité. On a même comparé entre les pays de l'Afrique du Nord par rapport aux pays subsahariens. Les pays d'Afrique du Nord, Maroc en particulier, sont plus sur une logique d'innovation individuelle, start-up, mais pas forcément des projets dans quelle mesure cette innovation, cette technologie va améliorer les conditions de vie de sa population, de sa communauté. Et donc c'est vraiment une spécificité. Et on va présenter justement un film d'un jeune qui a monté un projet Premium Hortus, qui est une plateforme d'e-commerce de produits agroécologiques. Mais je vais quand même laisser le film vous dévoiler le projet.
Nous sommes à Cotonou, la capitale économique du Bénin, qui compte 800 000 habitants. Je suis un entrepreneur vert, manager communicant d'entreprise, formateur des petites et moyennes entreprises, manager de Premium Hortus, créé en 2016 et qui compte aujourd'hui 6 collaborateurs. J'ai l'habitude de former les startups en management d'innovation. L'activité que nous avons eue aujourd'hui consiste à renforcer la capacité des entrepreneurs verts en élaboration de business model et en innovation verte.
À près de 25 000 francs.
Mon activité principale consiste à gérer Premium Hortus en vue de créer une filière courte entre les producteurs biologiques et les consommateurs. En amont de la filière, nous travaillons avec des groupements de producteurs maraîchers biologiques qui sont situés à la périphérie de Cotonou. Parmi les groupements, nous travaillons en étroite collaboration avec le réseau africain des maraîchers éco-santé, RAMERS. À ces groupements de producteurs, nous apportons des appuis techniques en termes de management. Nous apportons également une véritable accessibilité aux biofertilisants et aussi la commercialisation en ligne de leurs produits finaux. Là, comme ça. Nous collaborons aussi avec des start-up qui font partie de l'incubateur d'université d'Abomey-Calavi, dont un producteur de biofertilisants. Ces biofertilisants sont fabriqués à base des plantes adventices, récoltées ici au Bénin, mais traitées au laboratoire pour sortir des produits finaux très performants, appréciés par les producteurs.
C'est bon ?
Nous disposons d'une portion de 800 m² de production biologique pour répondre rapidement à la demande au cas où les groupements de producteurs ne l'auraient pas satisfait, car parfois il est difficile de faire face à la demande. Nous commercialisons beaucoup plus des produits maraîchers traditionnels qui servent à la préparation de la sauce, en accompagnement des tubercules et céréales, mais aussi des produits fruits et légumes plus communs. Nous avons conçu une plateforme disponible sous forme web et mobile qui permet au consommateur final de commander son produit et de se faire livrer à domicile en temps réel. C'est la première plateforme d'e-commerce et d'appui aux producteurs de produits biologiques dans la sous-région et notamment dans l'Afrique de l'Ouest.
Bonjour, bonne arrivée.
Nous comptons aujourd'hui environ 700 clients déclinés en collectivités, restaurants, hôtels et ménages. Notre projet génère plusieurs impacts positifs, la réduction des gaz à effet de serre émis par l'agriculture conventionnelle, l'adaptation des producteurs aux effets des changements climatiques, la préservation de la biodiversité, de la faune et de la flore. Nous avons également au niveau du consommateur la préservation de sa santé, la consommation responsable et tout ceci pour vivre dans un environnement sain. Il ne sert à rien de produire pour nuire à la santé du consommateur et de l'environnement. Aujourd'hui, nous devons intégrer la santé du consommateur et l'environnement dans notre stratégie d'entreprise. Aux jeunes entrepreneurs, je leur demande de persévérer sur le chemin de l'innovation verte. Car l'agriculture s'est écrite avec ses imperfections, mais nous pouvons écrire son avenir.
Donc voilà, c'était juste... Non, c'est pas la mienne. Voilà. Donc c'était juste pour vous partager avec vous le type, le niveau des jeunes entrepreneurs africains aujourd'hui et leur engagement individuel sur le plan... Hein ? Ouais, ok. Voilà, l'expertise aujourd'hui qui est disponible, enfin quand on parle de transfert, parce que dans l'accord de Paris, il y a effectivement le transfert de technologie, mais souvent quand on parle de transfert de technologie, on raisonne transfert nord-sud. Aujourd'hui, il y a des données qui sont en train d'évoluer et on se rend compte qu'il y a l'expertise est aussi africaine, l'expertise est aussi portée par les jeunes, l'expertise aussi est portée par les citoyens, on parle d'expertise citoyenne. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce type d'engagement, ce type d'initiative, ce type d'accord, devrait aussi influencer sur les processus de négociation. Je pense que les jeunes ou les associations ou les acteurs de la société civile sont plus en connaissance des priorités qui concernent le développement et la lutte contre le changement climatique et l'adaptation dans leur territoire que les politiques généralement qui les représentent et qui restent quand même sur le discours. Donc c'est ce qui fait que notre combat aussi de promouvoir, d'identifier, d'accompagner ce type d'acteurs. Donc là c'était des exemples d'entrepreneuriat vert porté par les jeunes, mais on a aussi beaucoup de projets portés par des associations, notamment les associations de femmes. On a constaté qu'il y a une véritable dynamique locale portée par des femmes à travers des groupements villageois, à travers des associations. Là, je partage avec vous un exemple d'un groupement au Tchad dont le projet est basé sur l'agroforesterie comme étant un rempart contre la désertification. Et donc, l'association, elle part du constat suivant, c'est que la sécheresse et la désertification ont connu comme conséquence la destruction des terres arables et que le couvert forestier a en grande partie disparu, et ce qui a engendré un appauvrissement de la communauté et une insécurité alimentaire. Donc on revient aussi aux questions d'insécurité. Donc l'objectif de l'association à travers ce projet-là a été de stopper ou de contribuer à stopper la dégradation des terres et de s'engager dans une agriculture durable sur 91 hectares que compte le groupement. C'est quand même énorme. Donc au total, 11 000 arbres ont été plantés et des espèces d'arbres qui avaient disparu ont été réintroduites. Donc on est vraiment dans une logique de biodiversité. Une nouvelle approche a été adoptée pour l'agriculture. Comme vous le savez, la difficulté en Afrique, c'est vraiment la diversité, diversifier les cultures issues de l'agriculture. Donc là, c'est un des objectifs de l'association. Ils ont aussi intégré ou introduit des techniques de l'agroforesterie. Progressivement, l'agroforesterie combine à la fois la culture des produits vivriers, la plantation d'arbres, mais aussi le petit élevage, ce qui est important dans la sécurité alimentaire au niveau local. Et les interactions entre ces trois éléments sont très positives. Et pour protéger les parcelles, notamment de l'érosion éolienne et hydrique, des haies vives ont été plantées à leur pourtour, ce qui favorise aussi la préservation de la biodiversité. Donc vous voyez bien que ce projet, à travers ce groupement de femmes, a permis de renforcer l'implication des femmes dans la gestion des biens communautaires, mais elle a aussi permis de contribuer à la lutte contre les changements climatiques à travers ce projet. Rapidement, un deuxième projet au Cameroun, porté aussi par une femme très dynamique, très engagée, à travers notamment la production du charbon bio à base de déchets. Donc, le constat est le suivant, c'est que l'une des causes en est la déforestation poussée, de la perte de la biodiversité dans les forêts due à la coupe abusive d'arbres pour des besoins multiples. C'est aussi bien, enfin, il y a ce constat-là. L'agriculture extensive, le bois de chauffe aussi. L'initiative vise à produire et à vulgariser du charbon à base de déchets issus de l'agriculture et de la sciure de bois afin de satisfaire les besoins en énergie des ménages et de réduire la pression anthropique sur l'écosystème. Donc ça, c'est aussi un autre exemple qui permet de lier la réduction de l'impact sur le bois et sur la forêt, mais en même temps améliorer l'accès à une énergie alternative, accessible, à moindre coût, qui est le charbon vert. Et en même temps, la mise en place de coopératives de femmes en charge de la production et de la commercialisation du biocharbon. Alors cette dame qui est vraiment pour nous une femme leader, accompagnée la mise en place, je ne me rappelle plus combien, Benoît, 17 unités artisanales de production de charbon vert et qui font justement aussi, qui permettent d'avoir aux femmes d'avoir des revenus supplémentaires et améliorer leur niveau de vie. Donc ça, c'est, on ne voulait pas, parce que la base est quand même assez riche en initiatives, on voulait partager avec vous le type de projet porté par les collectivités territoriales. Là, c'est très récent, c'est un des projets qui a été finaliste pour les trophées de 2018, porté par le conseil général de Tivoine au Sénégal, 431 000 habitants. Et donc, il s'agit, enfin, la spécificité de ce projet-là, c'est qu'il a essayé de lier de la valorisation des déchets ménagers en compost et le développement de l'agroécologie pour l'amélioration de la sécurité alimentaire des populations. Alors, ce qui nous a intéressé dans ce projet-là, encore une fois, mais ça, c'est une spécificité de tous les acteurs, quel que soit le type d'acteur, de toutes les initiative climat, c'est qu'ils sont vraiment dans une approche partenariale, communautaire, là en l'occurrence intercommunale, parce qu'ils ont élaboré 4 plans communaux de gestion des déchets. Quand vous connaissez la problématique des déchets en Afrique, ça permet vraiment de résoudre un vrai problème en termes de gestion, enfin, en termes de qualité de vie, de cadre de vie. La mise en place de centres de traitement a permis de supprimer les dépotoirs sauvages et de créer des emplois jeunes. Ça a permis aussi la vente du compost aux agriculteurs à un prix compétitif. Quand vous connaissez le prix des engrais et des pesticides généralement dans ces pays-là. Et la formation de formateurs pour des animateurs et des producteurs leaders sur les principes de l'agroécologie. Donc, bien entendu, ce qui est intéressant, c'est de voir une collectivité qui s'intéresse aussi à des projets communautaires et qui va accompagner ces projets communautaires et lier deux problématiques, sécurité alimentaire, agroécologie, avec la gestion, la valorisation des déchets. Un autre exemple, et là c'est plutôt l'espace anglophone, ça c'est vraiment assez récent, et il concerne un des écosystèmes les plus fragiles en Afrique, qui sont les mangroves. Donc là on a quand même pas mal de projets qui sont portés par des associations, là en l'occurrence c'est la ville de Kélimane, 400 000 habitants. Et donc, l'objectif, c'est de restaurer la mangrove qui a été dévastée à cause de l'utilisation du bois pour la construction et pour le chauffage. Et donc, le type d'action, ça a été de replanter pour repeupler les champs de mangrove par la population locale. Donc, il y a aussi une implication de la population dans ces projets-là. La construction de 12 maisons modèles résilientes avec des matériaux locaux, mais sans utiliser le bois de mangrove. Des artisans locaux ont été formés pour construire les maisons afin qu'ils puissent ensuite transférer ce savoir-faire à leur père. Et donc, voyez bien que ça permet effectivement de préserver, enfin, restaurer un écosystème vulnérable, fragile, tout en donnant des alternatives à la population, notamment pour la construction et l'utilisation d'autres produits, d'autres matériaux. Donc, ça a permis la constitution de groupes de travail qui est composé de 30 membres dans chaque communauté pour travailler pendant un mois. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, ces 30 membres devrait être remplacé par 30 membres le mois suivant. Vous voyez l'échelle, enfin, quand on parle de changement d'échelle, là, ça permet vraiment de généraliser et de faire profiter le projet à plusieurs acteurs de la population locale. Le taux de survie, donc, ils ont aussi introduit de nouvelles semis et ils ont constaté que le taux de survie des plants est de 87% comparé à la plantation des semis qui venaient des pépinières. Donc ça aussi, c'est intéressant. Ça a permis, le projet a permis la restauration de 33 hectares de terres dévastées. 86 hectares de terrain ont été préparés pour la restauration hydrologique. Donc là aussi, il y a un partenariat avec une université de Californie pour trouver d'autres techniques de restauration, en l'occurrence la restauration hydrologique. Donc un des impacts, enfin le principal impact, c'est la réduction du niveau des marées et des inondations de la ville. Et après, bien entendu, la sédentarisation de la population au niveau du territoire. Et enfin, un dernier exemple d'Afrique du Sud. Là, on est sur une autre échelle en termes de population, 3,5 millions d'habitants. Et donc là, ils partent du constat que l'empreinte du sol, ça c'est intéressant, c'est parce que c'est lié à la Coupe du Monde 2010. Et donc, c'était un projet de reforestation pour compenser les émissions de gaz à effet de serre liées à la Coupe du Monde 2010. Donc, ils ont constaté que l'empreinte du sol des matchs de la Coupe du Monde 2010 a été estimée à 307 208 tonnes d'équivalent de dioxyde de carbone. Et l'exploitation d'environ 800 hectares de forêts indigènes locales permettra de compenser environ 42 000 tonnes de carbone sur une période de 20 ans, réduisant ainsi la quantité de dioxyde de CO2. Et donc, c'est intéressant aussi de voir qu'on peut aussi saisir des occasions pour s'inscrire dans une démarche de lutte contre les changements climatiques, en l'occurrence là, la Coupe du Monde. Donc 700 000 plantes et arbres dans plus de 60 espèces ont été plantées. 16 étudiants en recherche postdoctorale ont bénéficié d'un soutien pour effectuer des recherches pertinentes. Et en moyenne, 60 emplois ont été créés chaque année. Donc juste pour conclure, on a bien vu que la plupart des, quel que soit le porteur du projet, entrepreneurs, jeunes, associations, groupements, villageois ou collectivités territoriales, la spécificité des initiatives climat portées par les acteurs non étatiques en Afrique sont vraiment dans une logique partenariale, multi-acteurs, communautaire, avec le maximum d'impact sur les populations locales et d'amélioration de leurs conditions de vie, que ce soit à travers l'agroécologie ou l'accès à l'énergie. Et donc on voit bien, il y a des discours, des théories, des concepts portés par la communauté, mais là, c'est des réponses très concrètes, justement, à ces questions d'atténuation et d'adaptation, et je vous en remercie.
Merci Myriam pour la présentation de ces initiatives. Je ne doute pas qu'arriver chez vous, ou peut-être à partir de demain, vous précipiterez sur le site internet pour découvrir les 200 autres initiatives qui sont maintenant en ligne, que ce soit celles portées par les associations, les jeunes entrepreneurs ou les collectivités, parce que ce sont des initiatives extrêmement inspirantes, bien sûr, pour les acteurs africains, mais je crois aussi pour nous-mêmes. Je crois que les démarches qui sont initiées dans certaines initiatives peuvent être riches d'enseignements pour ce qu'on peut éventuellement initier en France ou dans notre région ou dans notre ville. Voilà, écoutez, nous avons été ravis d'avoir ces trois interventions abondamment illustrées de chiffres et de témoignages. Maintenant, on peut prendre un petit peu de temps, bien sûr, pour avoir un échange entre les intervenants et vous-même. Mais vous pouvez aussi apporter des éléments d'information complémentaires, parce que bien sûr, nous n'allons pas ce soir épuiser le sujet du changement climatique, tant c'est une problématique évidemment très, très large et qui va nous préoccuper vraisemblablement encore quelques années, sans doute. Voilà, alors on peut faire peut-être circuler un micro. Qu'est-ce qui veut être porteur de micro? Oui, merci, c'est gentil. Voilà, qui est-ce qui veut intervenir, poser une question, apporter un témoignage, faire une proposition, délivrer une information complémentaire? Voilà.
C'est pas une proposition ni une question, c'est une information d'importance, vous jugerez par vous-même. Et justement, pour rebondir sur les expériences des collectivités territoriales dont il a été question tout à l'heure, je voudrais citer l'expérience de Grand Poitiers et l'élaboration du plan climat qui vise à envisager d'ici 2030 et en prolongement d'ici 2050, comment nous allons sur le territoire réduire nos émissions de gaz à effet de serre et comment nous allons réduire nos consommations d'énergie fossile. C'est le plan climat qui correspond à la loi 2015 sur la transition énergétique, la loi française, qui oblige tous les territoires d'une certaine taille à élaborer leur plan climat. Bon, je ne vais pas détailler ce plan climat, il est en cours de fabrication, je dirais, entre guillemets. Ce que je voudrais signifier ici, c'est que ce plan climat, il est quasiment ignoré par la population. Personne n'en a entendu parler, ou pratiquement. Et ça, c'est vraiment grave. Donc, j'appelle la communauté de Grand Poitiers, ses élus et ses décideurs, à penser sérieusement à impliquer les citoyens dans cet immense projet qui concerne notre territoire et qui concerne chacun d'entre nous. Voilà. Merci. Je le fais au nom de l'organisme Alternatiba. Alternatiba vise à promouvoir les initiatives liées au climat. Et donc, nous sommes partie prenante avec Grand Poitiers de ce plan climat parce que nous avons été par hasard au courant et on nous a ouvert la porte, mais nous sommes quasiment les seuls.
D'accord, bah merci pour l'information. Voilà, donc une personne de Grand Poitiers va nous répondre.
Oui, bonsoir. Bonsoir, donc. Vice-présidente Grand Poitiers en charge de la transition énergétique et notamment de ce plan climat air énergie territoire. Donc effectivement, pour le moment, il est en chantier. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs qui ont été associés. On a notamment fait une saisine du Conseil de développement responsable. Il est ouvert au plus grand nombre. Il y a eu plusieurs grandes présentations. Alors, on n'est peut-être pas bon en com, je le note, mais en tous les cas, c'est ouvert. Alors, je ne m'occupe pas de la com. Alors voilà, c'est ça.
Ateliers, pardon. Un forum a existé au moment où le plan, la stratégie globale de Grand Poitiers a été déterminée. Et juste un peu avant le vote des élus, il y a eu un forum où il y avait principalement des institutionnels, les représentants des énergéticiens, etc. Quasiment pas de citoyens et quasiment pas d'associations, sauf la nôtre. Ça, c'est une première chose. Donc, comment ? Oui, c'est dans la journée. Et puis ensuite, il y a la mise en place d'ateliers thématiques qui visent à traduire la stratégie globale du territoire en termes des énergies et de développement des énergies renouvelables. Cette stratégie doit être déclinée en multiples actions touchant l'habitat, la rénovation de l'habitat, touchant le transport, touchant l'agriculture, etc. Ces ateliers sont mis en place, mais sans aucune publicité. Et en fait, on est quasiment peu nombreux à participer à ces ateliers. Et c'est très regrettable parce que c'est des ateliers qui concernent vraiment tout le monde. Donc il y a une organisation qui n'a pas été pensée. Dans certains territoires, cette organisation avec les citoyens a été pensée. Et c'est ça qui est dommage. Donc il n'est pas trop tard.
Absolument, c'est ce que je voulais vous dire. Il n'est pas trop tard.
Il n'est pas trop tard pour le penser.
Les ateliers pour le moment, alors je mets un petit bémol quand même. Les ateliers pour le moment, il y a eu du travail élu, du travail technicien et toute la partie effectivement citoyenne est encore à mettre en œuvre.
Bon, alors attendez, on va peut-être
les
continuer.
Ne sont pas.
C'est pas forcément
pourquoi
après, mais aujourd'hui, on n'a pas été bon en com, manifestement. Donc, je le regrette, mais bon, la voilà. Porte n'est pas fermée.
Alors, on va.
Moi, si, parce qu'il y a eu des forums.
Alors, si vous voulez bien, on va lancer un appel ce soir pour ceux qui veulent participer éventuellement aux ateliers.
Voilà, la porte
c'est un
est
premier
ouverte.
Appel. Et puis, on va essayer de faire des efforts en matière de communication. Maintenant que vous avez été interpellé sur ce plan-là, donc peut-être que vous pouvez prendre contact avec les services ad hoc de la mairie qui pourrait peut-être informer peut-être plus largement les citoyens qui pourraient,
de
Grand Poitiers qui souhaiteraient participer le cas échéant effectivement à ces ateliers. Voilà, l'appel est lancé. Oui.
Bonsoir. Première chose, je suis content que la salle soit pleine, même sur 130 000 habitants de la. Oui, il y a du monde dans la salle, c'est bien. Bon, il y a 130 000 habitants sur l'agglo, donc c'est normal qu'il y en ait un peu ici. Je suis content qu'il y ait Florence Jardin ici, vice-présidente, et Yves Jean. Et à la fois, j'ai envie de vous dire des choses en face, mais je n'ai pas trop envie de vous tirer dessus, parce qu'autrement, vous n'allez plus venir aux conférences. Et ça, c'est embêtant, parce que c'est rare de trouver des élus à des soirées à Mendès France, ou même en journée. Et j'ai remercié Florence tout à l'heure en arrivant parce que c'est important. Donc, il faut trouver le dosage. C'est vrai que pour reprendre ce que dit Bernard à Alternatiba, on n'a pas vu dans la revue de l'agglomération urbaine de Grand Poitiers, Croutel et jusqu'à loin dans la campagne, on n'a pas vu un dossier sur ce plan climat. On trouve plein de trucs dossiers sur les quartiers qui se font des choses, qui font des fêtes de quartier, tout ça. C'est sympa. Mais là, il y a quand même un enjeu majeur. Et pourquoi le service com, dont tu n'es pas responsable, Florence, ne travaille pas là-dessus? Est-ce qu'il y a des consignes de la part des élus pour dire on fait notre truc entre élus, agents, EDF et compagnie, qui est un excellent conseiller sûrement, et les quelques autres partenaires, et puis les assos, ben on verra si on a de la place pour les inviter. Ça, c'est quand même embêtant. Parce que c'est aussi un prétexte, un argument pour nous de dire vous nous mettez sur la touche et ça continue de faire la critique. Alors, il y a des gens qui mettent des gilets jaunes sur les tableaux de bord en ce moment. C'est une manière de gueuler, mais ce qui serait bien, c'est de les mettre en position de proposition. Et là-dessus, la collectivité territoriale, ou les collectivités en général, ne sont pas toujours sur une démarche participative. Un autre enjeu en ce moment, j'ai appris hier qu'EDF vient d'acheter des lots de parcelles, 150 hectares, à Chinon, à Saint-Laurent-des-Eaux, et puis je ne sais plus trop quelle autre commune. On se demande pourquoi EDF achète des terres en catimini. La SAFER ne dit rien, des terres agricoles, hein, c'est des terres agricoles. Il paraît qu'il y aurait des EPR à construire. Est-ce que c'est une solution avec les enjeux climatiques sur la réduction de la quantité de flotte dans les cours d'eau qui serait aussi peut-être utile pour les centrales nucléaires? C'est vrai, je ne suis plus client d'EDF depuis 20 ans, donc c'est un peu facile. Mais le risque, c'est qu'on ait des politiques publiques qui nous fassent déplacer le problème. Et en mettant le zoom sur les énergies carbonées qu'il faut réduire, on passe à un autre type d'énergie nucléaire pour les véhicules, entre autres, voitures, camions, mais qui ne va pas résoudre sur du très long terme parce qu'il y en a qui vont se payer des déchets radioactifs encore plus importants. Et donc ça, c'est un enjeu majeur de voir comment on peut continuer d'avancer sans déplacer des problèmes.
Merci. Alors, peut-être une intervention de deux
remarques. La première sur la communication. Le jour où il y aura à la communauté urbaine un élu qui ne sera pas de Poitiers en charge de la circulation de l'information, et volontairement je parle de cela, et pas de communication, et que ce ne soit pas le service de communication de la ville qui décide de la communication sur Grand Poitiers, je pense que les choses peuvent changer. Et puis, deuxième remarque sur le fond, je pense qu'il y a vraiment une question de méthode, c'est-à-dire que la démarche, ce n'est pas une démarche de l'association des habitants. Voilà. Or, on est sur un territoire dont la géographie, désolé de dire un mot en tant que géographe, pose quand même de vraies questions sur l'identité, c'est-à-dire qu'aller de l'appui, etc., sans avoir Noyers-Maupertuis, Neuil-l'Espoir, voilà, qui sont en interaction permanente avec Poitiers, voilà, faut construire l'identité dans ce territoire, et ce n'est pas avec les élus et les techniciens qu'on construit l'identité seulement. Quoi. Voilà, donc il y a vraiment un problème de démarche et de méthode. Voilà.
Je pense que c'est bien de signaler cela.
Ceci dit, je complète quand même. Je pourrais vous fournir la liste des structures qui ont été invitées. Elle n'est certainement pas complète. Il y a effectivement de l'info à faire auprès des citoyens. Et là encore, à part les bulletins et les sites, c'est compliqué. C'est très compliqué. Mais je fais passer.
Deux mots de positif. Bon, j'ai été élu, je connais un peu comment ça marche. Mais quand même, mon petit doigt me dit que le maire président de la communauté d'agglomération a reçu pendant longtemps, pas plus tard qu'hier, Benoît Théo et Myriam. Donc c'est intéressant, les choses rentrent. Nous sommes tout à l'heure, j'ai compté plus de 90, c'est énorme, je veux dire, par rapport à Poitiers. Alors, je regarde un peu ce qui se passe par rapport à la presse. On n'a pas ce genre de réunion à Angoulême, on ne l'a pas à Niort. Bon, demain, ça va se faire. Ni à Bordeaux, hein, ni à Pau, ailleurs, c'est intéressant. Il y a une démarche qui se fait. Et moi, j'ai vu M. Le Gub l'autre jour à Alternatiba, c'est extrêmement intéressant. Il y avait beaucoup de monde. C'est une chose qui fait. Mais après, je crois qu'il faut avancer. Et ce qui est positif, c'est que des élus de Poitiers viennent, et puis rassurez-vous, hein, ils vont en parler, ils vont faire remonter l'information, c'est ce qu'il y a d'intéressant. Mais bon, moi, je suis optimiste et j'arrêterai là en vous parlant d'un programme politique. Bon, personne ne va rien dire, parce que c'est un programme politique de René Dumont. Hein, en 1974, je ne vous parle pas des chemises blanches, vertes ou jaunes, là, actuellement. Moi, je n'ai pas de quoi mettre ça sur mon vélo. Hein. Et je crois que le vélo, c'est aussi une des solutions. Hein. Si on prenait exemple sur Paris, qui va mettre la région Île-de-France, qui va mettre 5 milliards d'euros, nous, par rapport à la population, ça fait 2 milliards et demi. Enfin, en gros, pour un plan vélo, on pourrait avoir à peu près 1 à 2 millions pour 5 ans, pour Grand Poitiers. Ça serait intéressant, on pourrait faire des choses. Mais donc, René Dumont, son programme, il avait un sous-titre. Hein. L'écologie ou la mort. Là, ce soir, c'est plutôt un peu quand même d'optimisme. On sait ce qui nous guette. Ça a été démontré par les scientifiques. Ça a été appliqué. Puis, ce que vous faites de façon modeste, mais fondamentale en Afrique, c'est intéressant. Moi, je crois qu'on pourrait imaginer les initiatives climat du Grand Poitiers. Bon, en englobant SMARV, c'est vrai, en englobant les communes qui en font partie, ça vaudrait le coup. Et je fais confiance dans ces deux élus-là, que j'ai côtoyé un peu un temps jadis, pour faire avancer les choses. Les choses ne sont pas de façon formelle. De toute façon, demain, vous allez vous précipiter pour lire l'excellent livre coordonné par Yves Jean sur le monde rural. Vous le verrez, c'est intéressant. Vous achèterez aussi un excellent livre qui s'appelle, je crois, Nous voulons des coquelicots. Vous trouverez ça absolument, absolument partout. C'est intéressant, plus les documents de Benoît. Et je vous invite à venir la semaine prochaine, hein, on en remet un coup, sur le bouleversement climatique. C'est une réunion organisée. Je crois qu'il y en a dans la salle. Et les normes ont conduit. On a monsieur le professeur Le Gup qui est là aussi. Alors, ce n'est pas ici. C'est le 13, donc mardi. Et c'est à la MCL, alors ça s'appelle maintenant le local, pour continuer. Et je crois que les élus ont pris conscience, comme la population, et je crois que c'est une bonne chose, des fois, d'être un petit peu en avance, et continuons, et prenez tous ces documents-là. Au passage, quand vous irez acheter vos bouquins, soit chez Gibert, soit à La Bruyère Vagabonde, soit à La Belle Aventure, prenez une souscription pour La Belle Aventure. Il se passe pas mal de choses dans cette ville. Et les élus ne freinent pas. Ils s'y participent. Bon, ben, ils ne sont pas des fois toujours devant. Mais je crois que à nous, de les interpeller pour qu'on fasse la même chose, pour qu'il y ait peut-être l'année prochaine initiative climat dans le Grand Poitiers.
Bon, ben, merci. Alors, une dernière intervention, là, s'il plaît, ici.
Oui, Gilles Chevalier, agriculteur. Je voudrais revenir un peu sur le changement climatique, le réchauffement climatique qui est indéniable. Nous, on le constate dans notre métier. Bon, ça a été cité tout à l'heure au travers des vendanges qui ont avancé de 15 jours, voire 3 semaines, et avec une meilleure qualité du vin. Bon, il y a quand même quelques avantages. Cette année, par exemple, j'ai jamais travaillé dans d'aussi bonnes conditions. C'est vrai que pour nous, il y a quand même quelques avantages. Bon, ceci étant dit, je terminerai. Enfin, je ferme cette parenthèse sur ce sujet. Simplement, je voudrais revenir quand même sur le recyclage du carbone. Parce que d'un côté, bon, on prône de moins consommer d'énergie fossile, mais il faut savoir qu'on recycle du carbone aussi. Entre autres, il y a l'agriculture, il y a les forêts qui recyclent du carbone, il y a également les océans. Enfin, ça a été démontré scientifiquement qui recycle du carbone, même si la température à certains endroits augmente. Donc il faut, je veux dire, au niveau de l'agriculture, nous, on est prêts à faire des efforts justement pour stocker du carbone dans le sol au travers des résidus de végétaux. Et ça, c'est quelque chose de très important, et on peut en stocker des milliards de tonnes. Ça va jusque-là. Enfin, ça a été fait, d'ailleurs, il y a des expériences qui ont été faites sur le sujet. Et parallèlement à ceci, donc au réchauffement climatique, bon, je suis quand même un des premiers concernés, c'est l'eau. C'est vrai que ça devient de plus en plus problématique. C'est pas tant le fait qu'on ait moins d'eau qu'avant, parce qu'en termes de pluviométrie, pour l'enregistrer, on a à peu près des constances, je dirais, en termes de pluviométrie. C'est simplement la répartition qui est différente. C'est ça, c'est le gros problème. On a des, maintenant un peu comme dans les tropiques, sous les tropiques, on a des périodes sèches et on a des périodes pratiquement inondables. Et ça, c'est vrai que ça pose un gros souci maintenant. Donc, gestion de l'eau, stockage de l'eau. Alors après, est-ce que les débits des rivières a diminué de 20 à 30%, j'en sais rien, parce que je n'ai pas les chiffres et puis je n'irai pas contester. Mais je pense qu'il faudra aller certainement vers une politique de stockage de l'eau, d'usage, effectivement, partagé de l'eau, mais revoir, sans pour autant prendre des cultures, je dirais, gourmandes en eau, loin de là, mais revoir justement comment on améliore l'efficience de l'eau, que ce soit au travers du stockage, que ce soit au travers des cultures. Voilà.
D'accord,
mais
merci.
En agriculture, on s'adapte.
Merci pour votre témoignage. Bon, on va peut-être conclure cette soirée. Je voudrais simplement vous citer une phrase du dernier rapport justement du GIEC, de la coprésidente du groupe travail numéro 2, et qui nous dit « Les décisions que nous prenons aujourd'hui sont indispensables si l'on souhaite assurer à chacun d'entre nous un monde sûr et durable, aujourd'hui comme demain. » Voilà. Donc, l'enjeu, il est là. C'est à nous de relever le défi collectivement, tous les acteurs du territoire. Voilà, se doivent être rassemblés pour relever ce défi. Deux petites informations. Si vous souhaitez être tenu informé des activités de l'association Initiative Climat, vous pouvez vous inscrire sur une feuille qui est installée sur la table à l'extérieur. Et puis, pour les plus motivés d'entre vous, vous pouvez aussi adhérer à l'association. Il y a des bulletins de souscription, voilà, si vous voulez nous rejoindre. Hein. Merci en tout cas de votre participation. Et puis, espérons que tout le monde se mobilise pour participer à l'élaboration du plan climat.